Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Donald Trump confirme son calendrier, rien de nouveau dans son allocution à la Nation. Il annonce la fin de la guerre dans 2 ou 3 semaines. D'ici là, il veut finir le travail. Nous serons à Washington dans ce journal. Des voitures électriques pour contrer la hausse des prix du carburant. C'est l'idée du gouvernement pour aider les infirmiers libéraux. Et une première depuis plus de 50 ans. Un voyage autour de la Lune à plus de 400 km de la Terre. La mission Artemis 2 s'est envolée avec succès cette nuit.
Faut bien le dire, on n'a pas appris grand-chose cette nuit dans l'adresse à la Nation de Donald Trump.
Le président américain a repris en clair les grandes lignes de ses précédentes prises de parole. On va retrouver aux États-Unis notre correspondant Antoine Lard à Washington ce matin pour RMC. Le discours de Donald Trump visait surtout à rassurer Antoine la population américaine.
Oui, Trump d'abord promet que cette guerre ne sera pas un nouveau bourbier. Il assure que les objectifs sont quasiment remplis, que la guerre est presque terminée. Mais, dit-il, il faut finir le travail, ce qui implique 2 à 3 semaines de combats supplémentaires. 2 à 3 semaines pendant lesquelles, dit-il, les États-Unis vont frapper extrêmement durement l'Iran. Trump qui cherche aussi à rassurer sur les prix du pétrole. L'essence ici à la pompe a flambé, plus 35% depuis le début de la guerre. Le président américain assure que tout cela n'est que temporaire et que les prix vont rapidement baisser une fois les combat terminé. En revanche, Trump ne dit pas comment il compte débloquer le détroit d'Hormuz. Il explique que le détroit va naturellement s'ouvrir une fois que la guerre sera finie. Trump qui explique aussi que finalement le détroit n'est pas son problème et que les pays qui ont besoin du détroit pour s'approvisionner en pétrole doivent prendre les choses en main et se débrouiller tout seul pour aller sécuriser les lieux.
Et comme à chaque intervention du président américain, les marchés réagissent et ils ne sont pas rassurés. Ce matin, le cours du pétrole repart à la hausse au-dessus des 100 dollars.
Une flambée des coûts de l'énergie qui, il faut bien le dire, inquiète ici les agriculteurs.
Ceux de la FNSEA qui menacent de ressortir les tracteurs sans mesure forte de la part du gouvernement dans les jours à venir. Colère aussi des pêcheurs, beaucoup préfèrent rester à quai face à la hausse des prix du gazole marin qui a doublé depuis le début du conflit. Une crise qui pousse le gouvernement à avancer son plan d'électrification de l'économie, on en a déjà parlé, avec cette idée notamment de proposer une offre de location de véhicules électriques à destination des aides-soignants et des infirmiers libéraux, préférant attendre des précisions sur la mesure. Les syndicats du secteur sont dubitatifs, les professionnels aussi. Reportage Anna Jojard.
C'est une voiture thermique qui sert de deuxième bureau à Gaëlle, infirmière qui enchaîne les kilomètres chaque jour pour voir ses patients.
J'ai remis à zéro, je fais le plein hier matin, donc 183 kilomètres.
Et justement, votre plein d'hier, il vous a coûté combien ?
67 euros. J'estime que j'en ai pour 50 euros de plus par mois.
Pour le moment, malgré la hausse de ses dépenses en carburant, pas question pour cette soignante d'envisager de se tourner vers une voiture électrique. L'une des pistes du gouvernement pour aider la profession.
J'ai pas l'intention là tout de suite de changer de véhicule, donc ça changera rien à mon problème à la pompe à l'heure actuelle. Il y a des tas d'infirmiers qui peuvent pas passer à l'électrique, soit en zone rurale où il n'y a pas de borne, soit au contraire en ville. Il y a tout un tas d'immeubles où on ne peut pas installer de système de recharge.
Cette infirmière attend donc d'autres propositions de la part du gouvernement, car la hausse du carburant a déjà des conséquences sur son travail. Elle a par exemple dû refuser un nouveau patient.
Pour moi, c'était trop loin. J'ai regardé la localisation et je me suis dit que ce n'était pas possible en fait. On attend réellement une aide. On arrive à un moment où il y a beaucoup de cabinets déjà qui ont fermé. Je pense que ça va accélérer ce problème-là.
Les syndicats infirmiers demandent une exonération des taxes sur les carburants dont bénéficient déjà d'autres professions.
Une mesure de décarbonation d'un plan financé en partie par le surplus fiscal récupéré via l'argent de la TVA sur les prix des carburants. Le RN accuse le gouvernement de vouloir faire de l'argent sur le dos des automobilistes. L'exécutif s'en défend car dans les faits, Victor Joannin, pas sûr que cela rapporte beaucoup d'argent à l'État.
Au début du conflit, la hausse des prix à la pompe a bien généré un surplus fiscal de TVA sur les carburants puisque les Français en ont plus consommé que d'habitude, notamment pour faire des stocks, selon l'entourage de la ministre de l'Énergie, Maud Bréjon. Mais ce surplus devrait être contrebalancé à terme parce que quand les prix montent, les ménages s'adaptent et roulent moins. C'est en tout cas l'hypothèse de Xavier Timbaud de l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Si vous voulez, d'un côté, il y a une petite hausse de la TVA sur tous les litres vendus. Et puis, il y a une grosse baisse des taxes sur les litres d'essence qui sont pas vendus. Et en fait, on se trouve dans la situation où l'effet de baisse des volumes l'emporte sur l'effet de plus de TVA.
Cette flambée des prix se traduira donc par un manque à gagner pour l'État, selon cet économiste.
Ça peut aller jusqu'à 1 milliard d'euros par an si on restait avec une hausse permanente du prix de l'essence de 10%. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important.
L'existence ou non de ce surplus fiscal fait encore débat chez les économistes. En tout cas, personne ne l'estime à plus de 100 ou 200 millions d'euros par mois. Bercy est en train de consolider les chiffres et a promis de les publier dans 3 semaines.
Bon, si c'est 100 à 200 millions d'euros par mois, c'est pas énorme, mais quand même, que fait-on de ce surplus ? Le débat, évidemment, est lancé depuis hier matin, la baisse des taxes qui revient dans vos messages, mais surtout le financement de l'électrification. Il faut mieux répartir les aides, dira Cécile Duflot à 7h50. Vous intervenez déjà au 32-16.
Quatre personnes mises en examen écrouées hier soir après l'attentat déjoué du siège de la Bank of America la semaine dernière à Paris, imputées à un groupuscule pro-Iran, parmi eux 3 mineurs qui, selon les premiers éléments de l'enquête, auraient été recrutés par le 4e mise en examen. Près de 150 élèves internes d'un établissement scolaire privé évacués hier soir près de Lyon, conséquence d'un incendie circonscrit aux alentours de minuit, mais pas encore maîtrisé. Le feu a fait un blessé léger, un surveillant incommodé par les fumées. Cassandre Brault.
Oui, il est environ 21h quand le feu se déclare dans un bâtiment de l'institution des Chartreux dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Les alarmes incendies se sont tout de suite déclenchées. Les élèves ont évacué sans aucun mouvement de panique, selon Antoine Guérin, le préfet du Rhône délégué à la sécurité.
150 jeunes ont tout de suite été mis à l'abri et transférés dans un autre lieu. Et en toute sécurité, il y a eu 3 personnes légèrement intoxiquées au moment du déplacement de ces 150 jeunes en internat. Ils ont été mis à l'abri, ils sont aujourd'hui en toute sécurité.
Après avoir inhalé des fumées, une personne a été hospitalisée, selon Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui s'est rendu sur place dans la soirée et a salué le sang-froid des équipes éducatives. Si le directeur de l'établissement a de son côté évoqué la piste d'un court-circuit électrique, des investigations seront conduites pour déterminer l'origine de l'incendie.
Après les airbags Takata, les systèmes de freinage défectueux chez BMW, nouveau coup dur pour l'industrie automobile. Stellantis contraint de rappeler 700 000 véhicules hybrides dans le monde fabriqués de 2023 à 2026 en raison d'un risque d'incendie. 212 000 voitures de marque Peugeot ou encore Citroën sont concernées en France.
Et on termine avec un voyage loin, très loin de la Terre.
À plus de 400 kilomètres autour de la Lune. Un rêve pour beaucoup réalisé par 4 astronautes actuellement en orbite terrestre. Membres de la mission Artemis 2, ils ont décollé peu après minuit à bord de leur fusée haute de 98 mètres. Tout s'est bien passé. Nous partons pour l'humanité tout entière, dit l'un des membres de l'équipage qui, pour la première fois depuis la mission Apollo en 1972, Sébastien Bougère, va se retrouver de l'autre côté de la Lune.
Après de longues vérifications et devant des milliers de curieux, les réacteurs libèrent enfin des flammes et un immense panache de fumée. 2-1. Booster ignition. La fusée s'élance vers la Lune pour une mission record, puisque dans quelques jours, jamais des astronautes ne se seront trouvés aussi loin de la Terre, comme l'explique Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace.
La Lune se trouvera le 6 avril à 402 000 km de la Terre. La capsule Orion passera environ à 6 000 km au-dessus de la Lune. Ça fait 8 000 km de plus pour les astronautes d'Artemis 2 par rapport à ceux d'Apollo 13.
Une mission historique aussi grâce à l'astronaute Christina Koch, première femme à participer à un vol lunaire. Pour l'équipage, au moment de faire demi-tour derrière la Lune, notre planète disparaîtra de l'horizon. Toute communication avec la Terre sera coupée pendant plusieurs dizaines de minutes. Une répétition générale avant l'installation à partir de 2028 d'une station américaine sur le sol de la Lune.
L'objectif initial de la NASA, c'est de développer des technologies qui montrent qu'on est capable de vivre à la surface d'un autre corps céleste hostile.
Les Américains veulent ainsi préparer à long terme des futures missions vers la planète Mars.
Mais ça fait rêver.
Ça vous fait rêver, vous ?
Oh oui.
Moi, beaucoup, la conquête spatiale. Élise Dangean, pas trop, je sais, je l'ai demandé hier.
Un peu moins, mais depuis que j'ai appris que, grâce à Anthony Morel, qu'on avait inventé les couches modernes qu'on connaît aujourd'hui dans l'espace, l'ordinateur, etc., je me dis, c'est peut-être de futurs progrès à venir.
Pour regarder un peu ce qui se passe du côté de cette mission Artemis. En attendant, vous témoignez au 32-16. Merci Thibault pour le journal à 7h08. On était avec Daniel, qui nous appelle de Mayenne ce matin en direct. Bonjour Daniel.
Oui.
Soyez le bienvenu, Daniel. Vous êtes sur RMC en direct et vous avez sans doute entendu le choix de la rédaction ce matin, 4 ans.
Oui, j'ai entendu un monsieur qui parlait de maltraitance et il parlait de la nourriture, qui était de la maltraitance.
Dans les EHPAD. Alors je le reprécise, 4 ans après le scandale Orpea, on vous révèle ce matin que les maltraitances sur personnes âgées continuent. C'est évidemment sujet à débat, à appel de nombreux de nos auditeurs depuis 5h ce matin. Daniel, vous vouliez réagir ?
Oui, je veux réagir parce que, bien sûr, il y a sûrement des problèmes de maltraitance dans certaines maisons de retraite, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi, j'ai ma femme qui a été presque 6 ans dans une maison de retraite à Château-Gontier sur Mayenne. Au point de vue nourriture, je peux vous dire que c'était parfait parce que c'était une cuisine qui était faite à l'hôpital. La cuisine était faite sur place. Je peux vous dire que c'était très bon. Bien sûr, quand vous arrivez à l'heure du repas, vous voyez quelquefois dans les assiettes des espèces de bouillies. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, ce qu'on appelle de fausses routes.
Mais Daniel, oui, effectivement, il y a des questions de santé aussi, parce qu'on a parlé de bouillie dans les, parfois on ne peut pas déglutir. Daniel, c'est important ce que vous dites. Vous dites ne mettons pas tout le monde dans le même panier, quoi.
Voilà, la bouillie, c'est exactement la même chose que les gens qui mangent du solide.
Mmh. Daniel, merci. Merci de s'appeler. Non, mais ça vous a interpellé, je l'entends bien. Il faut aussi saluer, et très souvent, même quand ça se passe mal, disons-le, c'est un personnel dévoué, surmené, des effectifs en trop faible quantité. Donc, Daniel, vous êtes aussi venu quelque part saluer les fois où ça se passe bien, et c'est important de le rappeler aussi avec votre appel depuis la Mayenne, Saint-Berthevin, je vois, Daniel. Merci mille fois de votre appel. Vous continuez hein, sur les EHPAD, on va en parler longuement ce matin sur RMC au 32-16. N'hésitez surtout pas. Il est 7h10, 6 ans après la mort de Cédric Chouviat. Il y a eu un usage disproportionné de la force. C'est ce que dit hier la défenseure des droits. Hier, 6 ans après. Bonjour Christian Chouviat.
Bonjour.
Vous êtes le père de Cédric Chouviat. Et merci d'être avec nous ce matin avec Ari Halimi. Vous êtes l'avocat de la famille. Bonjour maître.
Bonjour.
L'État français est responsable de la mort de Cédric, c'est votre parti pris et c'est dans un instant sur RMC. À tout de suite.
Oui, c'est évident.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
7h14, vous êtes sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Une affaire emblématique du débat sur les violences policières ce matin. La mort de Cédric Chouviat suite à un contrôle, livreur à scooter plaqué au sol par des policiers et étouffé en janvier 2020. Christian Chouviat, vous êtes le père de Cédric Chouviat. Merci d'être en studio avec nous ce matin. Merci d'être venu avec Maître Ari Halimi, avocat de la famille. Bonjour à tous les deux. Christian Chouviat, au-delà de la police, et c'est votre parti pris ce matin, vous tenez l'État français pour responsable de la mort de votre fils ?
Oui, c'est sûr qu'ils ont une part de responsabilité qu'ils n'ont pas assumée depuis le début, puisqu'ils font traîner le dossier de long en large. Les avocats ont été... ils se sont battus aussi, et pas de réponse. Et puis hier, on fait un communiqué de presse, on fait une réunion avec la presse, et puis d'un seul coup, dans l'après-midi, hop, par magie, il y a une date qui est sortie pour le mois de... dans le courant octobre...
Oui, on parle
2026.
De l'automne prochain pour un jugement. Alors, voilà. Maître, on rappelle que la situation s'était tendue entre Cédric Chouviat et les forces de l'ordre, que Cédric Chouviat avait répété « j'étouffe » à plusieurs reprises avant de faire un malaise, de décéder 2 jours plus tard. 6 ans après... Donc la défenseure des droits vient de remettre ses conclusions sur ce dossier. Elle estime que les policiers ont fait un usage disproportionné de la force et elle saisit le ministère de l'Intérieur et demande une procédure disciplinaire. Qu'est-ce qui traîne en fait depuis 6 ans, Ari Halimi ? Pourquoi ça traîne ?
Bah, ça traîne parce qu'il y a eu une instruction judiciaire. Ça dure longtemps les instructions judiciaires. Le problème c'est que ça dure beaucoup plus longtemps quand il s'agit de violences policières. Ça, il faut le dire. Et puis, surtout, la défenseuse des droits a émis une décision extrêmement sévère et extrêmement rigoureuse. D'abord, en mettant en cause les 4 policiers, contrairement à l'instruction qui ne met en cause que 3 des policiers sur 4, en disant que les 4 ont commis des violences illégitimes qui ont causé la mort de Cédric Chouviat. Ça, c'est la première chose. Et donc, les blessures involontaires, ou l'homicide involontaire qui a été retenu pour l'instant par l'instruction, va probablement être remis en cause devant le tribunal correctionnel. Ça, c'est la première chose.
Oui, parce que vous, je me permets de vous couper, Christian Chouviat, vous dites qu'on ne peut pas parler d'homicide involontaire dans cette affaire.
Non, on ne peut pas parler d'homicide involontaire, puisque première clé d'étranglement, il le met au sol, sans qu'il y ait de mise à... Il a jamais mis à genoux, puisque ça a été rapporté. Il le met une deuxième fois, il fait 2 clés d'étranglement, une première et la deuxième pour l'achever. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. La deuxième, il l'a achevé complètement, avec 3 individus sur le dos. Il a plus de 200 kilos sur le dos, il a une deuxième clé d'étranglement. C'est impossible de s'en sortir. C'est impossible de s'en sortir.
Ah oui, c'est évident que pour nous, c'est autre chose que de l'homicide involontaire et on en discutera devant le tribunal le cas échéant. La deuxième chose, c'est qu'elle met en cause de manière sévère la défenseure des droits, le ministre de l'Intérieur, enfin tous les ministres de l'Intérieur successifs, en disant une chose extrêmement importante, c'est que ils ont laissé 4 personnes qui ont tué un père de famille continuer à exercer et en liberté et sans aucune procédure disciplinaire.
C'est pour ça que vous vous retournez contre l'État et contre l'institution. Vous avez d'ailleurs accusé nommément le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux et la procureure de la République de Paris.
Alors d'abord, les ministres de l'Intérieur Rappelons que Gérald Darmanin, qui est devenu d'ailleurs depuis ministre de la Justice, s'était moqué de Cédric Chouviat. Il avait dit, quand j'entends parler de violence policière, je m'étouffe au moment de la mort de Cédric Chouviat.
Quatre jours après avoir entendu la révélation de la presse, comme quoi qu'il avait dit, cette fois j'étouffe.
Exactement, donc il savait ce jour-là Gérald Darmanin, et Gérald Darmanin et l'autorité, à l'époque en tout cas, ministre de l'Intérieur, était l'autorité pour poursuivre disciplinairement ces quatre policiers. Il n'y a eu aucun engagement des poursuites disciplinaires et la défenseur des droits dit il y a un manquement de l'autorité hiérarchique à poursuivre et donc il y a un manquement de tous les ministres de l'Intérieur, y compris Laurent Nunez aujourd'hui. Puis il y a une deuxième chose qui est extrêmement importante, hein, c'est qu'aujourd'hui, on est 6 ans après et qu'on n'a toujours pas de procédure judiciaire. On n'a toujours pas de procès. Donc évidemment, à partir du moment où le procureur de la République, Madame Lorbecchio, qui est en charge actuellement, n'audience pas cette affaire. Ça fait depuis décembre 2024 qu'elle aurait pu l'audiencer. Eh bien, il y a une responsabilité, évidemment, avec de la justice.
Cette évolution de la journée d'hier, probablement une date à l'automne, voilà. Pas de date précise encore de votre côté, pas de... Ariel Imi, un dernier mot, les avocats des policiers mis en cause contestent ce rapport de la défenseur des droits, ils contestent les conclusions et ils évoquent, je cite, plusieurs inexactitudes factuelles. Ils affirment que leurs clients réservent leur déclaration pour l'autorité judiciaire. Rendez-vous au tribunal.
Mais on aurait préféré qu'ils s'explique dès maintenant, parce que la défenseur des droits, et on remercie cette institution qui est extrêmement importante dans le cadre de la République, et le travail qui a été fait, 6 ans d'enquête du défenseur des droits, extrêmement complet, avec tout le dossier d'instruction, avec des témoignages, avec des vidéos complètes, donc évidemment que le travail est parfait. Et évidemment qu'on en discutera devant le tribunal correctionnel. Mais ce que je constate, moi, aujourd'hui, c'est que le ministère de l'Intérieur, comme le ministère de la Justice, sont responsables de l'absence de justice à ce jour et nous réclamons qu'il y ait une audience extrêmement rapide.
Vous interpellez l'État pour sa responsabilité, c'est votre parti pris ce matin. Ariel Imi, avocat de la famille Chouviat, merci beaucoup.
Merci à vous.
Christian Chouviat, merci d'être venu vous exprimer sur RMC ce matin. Vous êtes le père de Cédric Chouviat, je le rappelle, mort en 2020. On suivra évidemment la suite de la procédure d'ici à l'automne prochain. Il est 7h20 sur RMC et dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes l'historien d'Apolline Matin et depuis plusieurs jours, Donald Trump menace de sortir les États-Unis de l'OTAN. Finalement, rien sur ce terrain-là pour le moment. Une alliance qui date, rappelons-le, de la guerre froide.
Oui, et l'OTAN, c'est une idée des Européens, hein, pas du tout des Américains. Les Américains n'étaient même pas chauds à l'origine et puis finalement, ils se sont laissés convaincre et vont s'installer en Europe pour combattre l'URSS.
Et puis à 7h40, on va fêter le premier anniversaire d'RMC Gold, de la petite sœur d'RMC, Arnaud Demanche. Ne pouvez pas louper l'occasion pour pirater l'interview. Bougez pas, on se retrouve dans 55 secondes. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC et RMC Story. Bon réveil si vous nous rejoignez. Quand l'histoire éclaire notre actualité, c'est avec vous, Arthur Chevalier. Donald Trump s'est donc adressé cette nuit dans un discours à la nation américaine. Et malgré ses menaces ces derniers jours, il n'a pas abordé la question du retrait des États-Unis de l'OTAN.
Eh oui, ces dernières heures, c'était la panique dans les capitales européennes. Comment faire sans les États-Unis au sein de l'OTAN ? Telle était la question. Finalement, Donald Trump n'a pas annoncé la sortie de son pays de l'Alliance de l'Atlantique Nord.
Bon, alors on va revenir en arrière, Arthur. Pourquoi est-ce qu'on a créé l'OTAN ?
Alors, bon, il faut un peu de contexte, hein, évidemment. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux camps s'affrontent. D'un côté, l'Ouest, l'Europe, les États-Unis, des démocraties libérales. De l'autre, le bloc de l'Est, c'est-à-dire des pays communistes dominés par l'Union soviétique. Et le but des Américains, eh bien, c'était contenir le communisme. Pour ça, ils avaient besoin de l'Europe. Donc, ils vont aider les Européens à se reconstruire en leur prêtant de l'argent via un plan massif, le plan qu'on appelle le plan Marshall. Entre 1948 et 1951, ils nous prêtent 13 milliards de dollars, ce qui aujourd'hui donnerait 130 milliards de dollars.
Ah oui, ça, les cours ont
les
évolué.
Cours montaient,
oui. À l'origine, l'OTAN n'est pas une idée des Américains ?
Pas du tout, ça, c'est une idée reçue. En 1948, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni signent une alliance militaire, et c'est eux qui proposent aux Américains de les rejoindre. Et dans un premier temps, les Américains refusent. Sauf qu'à l'Est, les Soviétiques se montrent de plus en plus menaçants. Donc Washington finit par accepter. Et en 1949, donc, on signe le traité de l'Atlantique Nord. C'est l'acte de naissance de l'OTAN.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie que les Américains débarquent en Europe. Hein. Ils vont installer des bases militaires un peu partout. Rien qu'en France, on en avait 12. Le siège de l'OTAN s'établit même à Paris à partir de 1952. Il y restera jusqu'en 1966, l'année où le général de Gaulle décide de quitter le commandement intégré de l'OTAN, mais tout en restant dans l'alliance.
Ah oui, alors expliquez-nous ça, parce que c'est complexe.
En fait, c'est très simple. Ce que de Gaulle voulait, c'est qu'il n'y ait plus un seul soldat américain, ni une seule base militaire sur le sol français, ce qui sera fait, mais la France continuait à faire partie du traité.
Oui, en fait, c'était simple. Oui. Et au sein de l'OTAN, les Américains, est-ce qu'ils ont plus de pouvoir que nous, les Européens?
Pas du tout. Autre idée reçue. Alors, bien sûr, ils ont une influence énorme, hein, parce que c'est eux qui payent le plus, mais le fonctionnement de l'OTAN, c'est l'unanimité, donc personne n'est en capacité d'imposer sa volonté aux autres.
Alors, aujourd'hui, Arthur, que représente la présence américaine en Europe?
Alors ça, c'est considérable quand même. À peu près 85 000 soldats répartis sur le vieux continent, plus la Turquie, hein, qui est aussi membre de l'OTAN. Le tout sur 37 bases militaires. Et contrairement à ce que dit Donald Trump, ces bases sont très utiles pour l'armée américaine, puisque ça lui permet de se projeter loin des États-Unis. C'est un relais logistique, aérien. En fait, c'est un pont vers l'Asie, la Russie et le monde arabe. Ils s'en servent d'ailleurs beaucoup pour le conflit en Iran. Donc pas sûr que ce retrait leur serait si profitable.
Merci beaucoup Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matien, ancien officier de la marine française.
Pareil.
Rappelons-le. Vous pouvez réécouter les chroniques d'Arthur évidemment en podcast avec l'application RMC. L'allocution, le discours de Donald Trump à la nation américaine. On y revient, vous l'entendrez dans le journal de 8h. Il est 7h24.
RMC.
De Manche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud.
Et bonjour.
Alors ce matin à 7h40, pour fêter les 1 an d'RMC Gold, l'invité d'Apolline Matin, c'est l'animateur Max.
Magique, Max et compagnie.
Vous vous souvenez de ça?
Max et compagnie, c'est nostalgique. Parce qu'il ne sera pas tout seul, Max, il vient avec Lému et Mathieu Rouault pour ben voilà, les 1 an de RMC Gold. Bonne année à notre petit.
Bonne année. Ouais, bien sûr. Bien sûr, allons-y bien le sûr, 2 avril.
Bon anniversaire à notre.
La santé soeur. Surtout.
Oui. Ah non, voilà, ça se fête, c'est le champagne. J'ai trop bu hier soir. Alors, RMC Gold se transforme pour l'occasion. Elle accueillera notamment une matinale. On écoute. Et vous êtes bien sur RMC Gold, la radio des fans de musique et notamment de ce jeune groupe toulousain, Gold qu'on vient d'entendre avec un titre, Capitaine Abandonné, et qu'on réécoutera tout à l'heure, juste après la version live de Capitaine Abandonné par Gold. Vous êtes bien sur le Golden Morning, c'est l'heure du petit déjeuner, le Golden Breakfast, c'est l'heure de la douche, la Golden Shower. Idéal pour se réveiller, demandez à Donald Trump qui nous écoute sur RMC Gold. Bref, de quoi démarrer la journée du bon pied. Et alors toute la journée, il y aura des émissions spéciales sur RMC Gold.
RMC Gold.
Et vous l'entendez, vous êtes toujours sur RMC Gold. Et c'est l'heure du débat avec Alain Marchal et Olivier Truchot pour les Grandes Gold. C'est les Grandes Gold. On est avec Charles Consigny et Bruno Poncet. Bonjour messieurs. Charles, comment ça va? Écoutez, non, et Bruno, mais j'ai réécouté Capitaine Abandonné et je suis désolé Bruno, alors tu m'interromps si tu n'es pas d'accord, mais non, ne m'interromps pas. Capitaine Abandonné, c'est ce que la gauche a fait à l'armée française depuis plus de 30 ans, l'abandon a été total Bruno.
Non mais je dis pas, sauf que bon voilà, Capitaine Abandonné c'est une bonne chanson, alors peut-être un peu moins bien en studio qu'en live. Et ça y est, mais le wokisme, mais c'est pas vrai, mais t'es une caricature, tu sais pas ce que tu dis. On va la réécouter pour voir. Qu'est-ce que je disais?
Et puis alors, ce soir, la grande nuit électro-gold pour les amateurs de techno musclé, de l'acide core de compète, de quoi se déchirer la tête.
Il est fou.
C'est un remix qui va durer 8 heures. Voilà, vous pourrez plus dormir pendant 3 jours. De quoi se mettre une caisse auditive de ouf malade et de ressortir avec une bonne gold bois. Voilà,
il a tout tenté.
Il a fallu creuser. Là,
on y revient avec Max et quelques surprises à 7h40 tout à l'heure. La radio digitale que vous écoutez sur l'appli RMC, sur les plateformes RMC Gold qui fête ses 1 an. On va parler des aides publiques pour la voiture électrique bien trop éclatées, morcelées. C'est ce que dit la Cour des comptes et c'est ce que dit notre voix de gauche, Cécile Duflot, à 7h50 tout à l'heure, dans un instant, la météo et le journal, à tout de suite. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Des bateaux de pêche à quai en Bretagne. Nous serons à Lorient où les pêcheurs renoncent à travailler à cause de la hausse du prix du gazole. Le cours du pétrole boosté cette nuit encore par le discours de Donald Trump. Un couple d'adolescents en garde à vue dans les Ardennes après la mort de 2 retraités. C'est leur petite fille et son petit ami qui sont au cœur de l'enquête. Et puis un basketteur français sera-t-il pour la première fois meilleur joueur de NBA? Victor Wembanyama est le grand favori cette année.
Le cours du pétrole grimpe
ce matin, après le discours de Donald Trump.
Le président américain continue d'entretenir le flou pendant 20 minutes cette nuit dans son discours à la nation. Il a promis de frapper extrêmement durement l'Iran pendant encore 2 à 3 semaines et assure que le détroit d'Ormuz va s'ouvrir naturellement. Ça n'est pas vraiment de nature à rassurer les marchés ni les travailleurs en bout de chaîne comme les pêcheurs qui ont vu le gazole marin doubler depuis le début de la guerre. Et malgré les aides au gouvernement, il est moins coûteux pour certains de ne pas travailler. Le reportage à l'Orient de Martin Lange.
Depuis hier et pour au moins 48 heures, les 6 bateaux exploités par Jérôme resteront à quai.
C'est toujours des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre parce que un chalutier c'est fait pour être en mer. Et malheureusement aujourd'hui le point de rupture est atteint.
De 60 centimes avant la guerre, le litre de gasoil maritime s'achète aujourd'hui près d'1,10€. Malgré l'aide de 20 centimes du gouvernement, c'en est trop pour ces bateaux très énergivores.
Là on est sur un bateau qui consomme environ par jour 1600 litres de gasoil. L'impact direct est de 900€ par jour de pêche. Aujourd'hui on ne peut pas rembourser nos charges, on ne peut pas payer correctement les marins. On perd de l'argent.
En Bretagne, une trentaine de chalutiers ont cessé leur activité. Plus au sud, à la Turballe, plusieurs bateaux se sont mis en arrêt technique, entraînant une baisse des approvisionnements. Éric Lemaireau, le directeur de la Criée.
Depuis lundi, on doit être à peu près à 10 tonnes des débarqués à la Turballe. Là, on avait plus de 30 tonnes l'année dernière. La baisse est considérable. Une Criée comme la Turballe fonctionne à perte depuis 15 jours. On ne va pas tenir très longtemps.
C'est toute une filière qui est en danger, conclut-il. Car si les prix élevés permettent pour le moment de sauver les meubles, à terme, une partie des consommateurs risque de se déporter vers d'autres marchés. Et notamment le poisson d'élevage.
On apprend ce matin que les compagnies aériennes chinoises vont appliquer une surcharge carburant sur leurs vols intérieurs. Au Moyen-Orient, on est loin de la calmie. Hein. L'armée israélienne a surcontré une nouvelle attaque de missiles iraniens ce matin, la quatrième en 6 heures. Le Hezbollah libanais revendique quant à lui des attaques de roquettes et de drones dans le nord d'Israël. Il y a donc urgence à électrifier l'économie pour moins dépendre des hydrocarbures. À en croire Sébastien Lecornu, le Premier ministre suggère de le financer grâce au surplus des recettes fiscales sur les carburants, ce que s'est empressé de dénoncer Marine Le Pen, chef de file des députés RN.
Comme ça, on électrifie l'économie, hop là ! Ah mais je croyais qu'il n'y avait pas de surplus, moi, des recettes fiscales. Quand on a dit qu'il ne fallait pas que l'État profite de la crise, le Premier ministre et l'ensemble des ministres nous ont expliqué que mais non, pas du tout, il n'y avait pas de recettes fiscales supplémentaires. Donc c'était déjà un mensonge, voyez. Alors il faudrait éviter de les accumuler, les mensonges de la part du gouvernement. C'est-à-dire, quand on ne sait pas faire, il faut mieux vaut partir. Voilà, je pense que M. Lecornu pourrait dire, bah, écoutez, moi je n'ai pas de solution, je m'en vais. Et croyez-moi, on organise des élections législatives, il n'y a pas de souci, on trouvera des solutions.
La nuit aurait pu virer au cauchemar à Lyon. 150 élèves internes ont dû évacuer de leur établissement hier soir à cause d'un incendie. Ça s'est passé dans le quartier de la Croix-Rousse. Au Chartreux, un surveillant hospitalisé à cause des fumées toxiques. L'origine du feu n'est pas encore connue.
Dans les Ardennes, à présent, des retraités ont-ils été tué par leur petite fille et son petit ami.
C'est toute la question qui se pose après la mort d'un couple de septuagénaires à Villers-Semeuse, leur corps retrouvé dans la cave de leur maison. Ce matin, c'est donc leur petite fille qui est en garde à vue avec son petit ami âgé de 16 et 15 ans. Amélie Courtet, vous vous êtes rendue sur place dans la commune à la rencontre de voisins profondément choqués.
Que s'est-il passé derrière les volets fermés de cette maison?
C'est terrifiant, on dort plus de la nuit.
Les voisins qui habitent juste en face de chez Daniel et François, le couple de retraités décédés, s'interrogent.
Pourquoi ça arrivait? Parce qu'on les voyait enfin joyeux ensemble.
Il n'y avait rien qui pouvait donner des raisons à quelqu'un, leur faire du mal ou quoi que ce soit. Les premiers à rendre service tout le temps. Il n'y a personne qui comprend et je pense que tout le monde dans la rue est un peu perturbé face à ça.
Une rue silencieuse où vivent aussi des membres de la famille des victimes.
C'est une catastrophe et on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait rien du tout.
La gorge nouée, le regard perdu. Le neveu de Daniel se replie chez lui. Aucune tension n'était connue entre la petite fille très discrète, placée en garde à vue pour meurtre, et ses grands-parents qui en avaient la garde.
C'est une surprise complète.
Élodie habite le quartier.
Daniel passait régulièrement, c'était une dame de bonne humeur. Donc non, vraiment loin de se douter qu'il allait se passer un truc comme ça.
Comment elle vous parlait de sa petite fille?
Elle ne nous en parlait pas.
Incompréhension, stupeur partagée par le maire Jérémy Dupuis.
Ce sont des gens qui sont investis dans des associations ardennaises qui venaient en aide aux plus démunis. J'aimerais bien qu'on se souvienne d'eux plutôt par toutes leurs actions que par la manière dont ils ont disparu.
Un hommage sera rendu prochainement à la mairie.
Ça n'était pas arrivé depuis plus de 50 ans. 4 astronautes sont en chemin vers la Lune pour en faire le tour. Décollage réussi cette nuit pour la mission Artemis 2. Et ces astronautes de la NASA ont reçu un message d'encouragement d'un certain Victor Wembanyama.
Rien que ça. Le basketteur français qui est passionné d'espace, mais toujours passionné de basket, hein, si j'en crois ses performances.
Oh, ouais, 41 points inscrits cette nuit avec les Spurs contre les Golden State Warriors. Wemby qui est en bonne posture pour en devenir meilleur joueur de la saison. Félix Gabory.
Le public de San Antonio n'en finit plus de chanter à sa gloire. Mais l'engouement autour de Wembanyama dépasse les frontières du Texas. Son statut de prétendant au titre de meilleur joueur de la saison, il le doit notamment à une sortie médiatique très remarquée la semaine dernière.
Mon premier argument pourrait être que la défense représente 50% d'un match et elle est souvent sous-estimée dans cette course au titre de MVP. Je pense que je suis le joueur le plus impactant de la ligue défensivement. Il y a un vrai débat, c'est vrai, et je pense mener la course. À moi de faire en sorte qu'il n'y ait plus de débat jusqu'à la fin de saison.
Comme un candidat en campagne, Wemby, l'un des meilleurs défenseurs de la NBA, a déroulé son argumentaire en rappelant que le basket ne se résume pas qu'à marquer des paniers. Son plaidoyer a fonctionné chez les votants. Stephen A. Smith, l'une des stars de la télé américaine, a désormais rallié sa cause.
Bon sang, il m'a fait changer d'avis. Je vais le mettre devant dans la course au MVP. Sérieusement, Wembanyama, il est vraiment spécial.
Wembanyama a encore jusqu'au 12 avril, date de la fin de la saison régulière, pour continuer de marquer les esprits.
Et le quintet, c'est à Auteuil aujourd'hui, Clara, 13h55.
Oui, la Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 5, Blécolina. L'outsider, c'est le numéro 8, Miss Altea Blue, le 5 et le 8.
Merci beaucoup, Clara Gabillet. C'était le journal. Et à 7h37, vos appels au 3216 avec Laure qui nous appelle de l'Essonne ce matin. Bonjour, Laure.
Bonjour à toute l'équipe d'RMC.
Soyez la bienvenue, Laure. Vous travaillez dans le commerce et vous avez réagi à cette étude qu'on développait ce matin. Les Français boivent de moins en moins, moins d'un verre d'alcool par semaine pour la moitié des Français. Un quart des Français qui ne boit jamais. J'entendais ça dans le morning à 6h40 tout à l'heure. Et Laure, vous avez témoigné, vous ne buvez plus d'alcool du tout, vous ?
Non, plus du tout. Depuis
abstinence totale.
Un peu plus de 15 mois. Oui, tout à fait.
Et je peux vous demander pourquoi ?
Je me suis dit, il faut se lancer. Et le dry January, il y a toujours une excuse. Donc, on se dit, allez, on se lance. Et je l'ai fait juste avant les fêtes de Noël. Histoire de me dire, bon, allez, on se challenge et on essaie. Et ça fait presque 15 mois maintenant que je ne bois plus d'alcool.
Ouais, juste avant les fêtes de Noël, c'est un vrai défi pour certains.
C'est vrai, c'est vrai.
Bon, et ça va, Laure ?
Eh bien, ça a amélioré mon sommeil, vraiment.
Voilà.
Et non, je suis beaucoup plus concentrée, j'ai plus d'énergie, j'ai amélioré.
Il n'y a pas de problème culturel, Laure, parce que vous savez, quand en France on parle d'alcool, évidemment, on parle de santé publique, et vous faites bien de le mettre sur ce terrain-là. Mais on parle aussi de convivialité, de culture, de tradition, et c'est parfois c'est pas ça. Facile dans un groupe d'amis.
Tout à fait, tout à fait. Les premières fois, on m'a demandé si j'étais pas enceinte. Alors, pour rien vous ne cacher, je viens en soirée avec ma bouteille de Badois et je me fais, vous savez, des verres ballons avec une tranche de citron et la Badois dedans. On a l'impression que c'est un gin tonic, personne n'y voit rien.
Bien joué, Laure.
Et moi, je sais que c'est de l'eau.
Bien joué, Laure. Merci beaucoup de votre appel, en tout cas, ce matin, de votre témoignage depuis l'Essonne ce matin. Laure, employée de commerce de 33 ans, vous continuez à réagir si vous le souhaitez au 32-16 ce matin. Il est 7h39. Et ce matin, on va fêter un anniversaire, celui de notre web radio préférée, Radio Digitale, notre petite sœur, RMC Gold. Bonjour Max.
Bonjour la grande sœur.
Vous êtes l'animateur phare d'RMC Gold et on vous retrouve notamment pour la libre antenne de 22h à minuit. Pas seulement, RMC Gold a un an, ça cartonne. Et pour entamer cette deuxième année, vous allez nous annoncer quelques nouveautés, une antenne encore plus riche. Et bien sûr, toujours la musique des années 80-90. Tous les détails avec vous dans un instant. Il y a quelques surprises, hein. Restez bien sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous, bienvenue sur RMC et RMC Story, il est 7h43 ce matin, on fête un anniversaire. Un joyeux premier anniversaire à RMC Gold, avec ce matin trois voix emblématiques de la petite sœur d'RMC. On va vous les présenter l'une après l'autre, la radio digitale que vous écoutez par millions désormais depuis un an pour écouter le son des
centaines
années 80-90.
De wow,
vous l'avez reconnu, il est là, c'est Max. Salut Max.
Salut, merci de l'invitation, c'est cool.
Max, vous étiez là pour lancer cette radio digitale musicale d'RMC il y a un an. Vous étiez persuadé qu'il y avait un public pour le meilleur de la musique des années 80-90, Paris gagnant.
Bah, la preuve, on fête les un an. Le temps passe vite pour faire battu. Ouais, non, franchement, c'est génial. Ouais, je n'avais pas grand doute, mais c'est vrai que
le public répond présent de plus en plus. On aura peut-être quelques chiffres tout à l'heure. Et c'est génial. Et
moi, j'en ai quelques-uns.
La famille s'agrandit.
Moi, je me permets de regarder. Moi, j'ai vu, par exemple, en février, RMC Gold, parmi les 10 premières web radios.
Oui.
Première pendant 2 mois cette saison. Enfin, il y a déjà des chiffres. Il y a déjà des stats.
On a fait, je crois, en un an, 6 millions de personnes qui sont passées venir écouter la radio. Voilà, il y a plus de 350 et 400 000 personnes qui viennent écouter dans le mois. Voilà, Libre Antenne du soir marche très bien. Les podcasts aujourd'hui, il faut faire avec. Le direct, mais le podcast, ça, c'est une deuxième vie des radios et des émissions.
Et des émissions.
Ça marche très bien.
On bosse aussi pour la rediff.
Eh ben oui, maintenant, vive la rediff.
Du lundi au jeudi, de 22h à minuit, vous animez la Libre Antenne, mais aussi la playlist de ta vie.
Ouais.
Ça, j'y tiens particulièrement pour avoir eu la chance d'y participer.
C'est un bonheur.
Un voyage musical dans les tubes préférés des invités. Il m'a invité, il m'a dit, parle de musique pendant une heure. Autant dire que j'étais plutôt heureux.
J'ai fait les grandes gueules, j'en ai fait pas mal dans la maison.
Mais qui dit anniversaire dit aussi nouveauté. Plein de nouveautés pour cette deuxième année. Et ça commence dès ce matin, dans un quart d'heure en fait, maintenant. 8h, le lancement de la première matinale RMC Gold. 8h-10h, Gold Morning, avec une voix que vous reconnaissez le matin sur RMC. Bonjour Mathieu Roux.
Et bonjour Mathieu Béliard.
Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça.
On se connaît, non?
On s'est déjà parlé dans un micro, je crois. C'est vous qui, tous les matins, allez réveiller en musique les auditeurs. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, Mathieu?
Ah ben, ça va être ton pire cauchemar. Je vais siphonner les auditeurs d'RMC un par un. C'est bon, les courbes, elles vont se croiser. Tu vas voir. Non, mais plus sérieusement.
Vas-y.
On va passer 2 heures, 8h-10h. On va passer Capitaine Abandonné de Gold pendant 2 heures. Ça va être génial. On va avoir évidemment beaucoup de musique, le meilleur 80-90, mais aussi les histoires rattaché à ses musiques, avec toute une bande. Tiens, Raphaël, par exemple, tu lui dis Scatman. Elle te fait 2 minutes de carte blanche, de poèmes comme ça, un peu psychédélique en musique. On va aussi avoir Maxime qui va nous faire des stories, c'est-à-dire l'histoire de tel tube. Et puis on va avoir Gabi qui est dans l'équipe du soir de la Libre Antenne.
Tu me le piques pas, hein, tu le prends pas le matin.
Qui lui.
Ça y est, ça commence.
Ouais, c'est ça. C'est bien un an, mais ça va être la guerre.
Lui va nous faire Première fois. Donc par exemple, Eurythmics. Tu connais la Première fois de Eurythmics? Et bien, c'était dans un bar. Voilà. Annie Lennox et tout. Donc, Gabi,
pas la première fois qu'ils ont fait l'amour, mais la première fois. La première fois
que Précision. Eh, Max, ça fait plaisir d'avoir des collègues un peu sur cette grille quand même là. Je vois que ça va chambrer un peu.
Non, mais moi, j'entendais que ça. On se connaît, on se croise souvent dans les couloirs, on parlait souvent de musique et c'était. Ouais, il fallait
moi, je le dis par rapport à ce que disait Mathieu. Vous avez le droit aux infidélités. RMC Gold, c'est la famille, c'est la petite sœur. Et en plus, sur l'appli RMC, vous passez de l'un à l'autre en un swipe, en un coup de pouce comme ça.
Évidemment.
Un coup d'RMC, un coup d'RMC Gold.
C'est l'alternance,
c'est ça. Autre nouveauté. Et là, je crois que je vais me jeter sur le podcast, évidemment. Une nouvelle émission, ça s'appelle Le Sampleur. C'est tous les soirs de 17h à 18h. C'est avec vous, Lému.
Exactement.
Bonjour, Lému.
Salut tout le monde.
Alors, les auditeurs d'RMC vous connaissent un peu?
Via la chaîne Twitch et YouTube.
Ouais.
Vous m'avez entendu crier, commenter le ping-pong tous les matins.
Exactement. Alors là, c'est complètement autre chose, hein. Le sampleur, c'est quoi le concept?
Alors tout simplement, un peu comme Mathieu, on va raconter l'histoire, surtout raconter l'histoire de vos hits préférés, que ça soit hip-hop, électro, on va même aller sur la pop, mais via le sample. Alors je vous vois, vous me dites, c'est quoi le sample? Le sample, c'est tout simplement quand tu prends un bout d'une musique déjà existante, que ça soit une mélodie, un bout de batterie, etc., et que tu t'en sers pour créer un nouveau morceau.
Il y a des exemples dont on peut parler déjà ce matin dans le sample?
Bien évidemment, je suis venu avec un petit exemple. On va en 1960, le film s'appelle Exodus, et dedans il y a une musique de film, et ça fait ça.
C'est pas le son des années 80-90.
On n'est pas dedans encore. Là. Peut-être que vous l'avez, mais il se trouve qu'on est en fin des années 90 et il y a un petit bonhomme à New York qui regarde ce film et il se dit, attends, ce son il est pas mal,
il est chaud,
est-ce que je tenterai pas, peut-être, oui. Ou à ce moment-là, peut-être pas tout à fait. Et il se dit, peut-être que ça ferait quoi à l'envers ce petit bout de son? On va entendre, ça va se jouer à l'envers.
Moi j'ai déjà.
Ah.
Voilà. Incroyable. Porcelaine de Moby.
Exactement.
Bravo. Porcelaine de Moby.
Et c'est un peu ça qu'on va faire, décrypter un peu nos hits préférés et raconter comme Mathieu l'histoire via le sample.
Ça, vraiment, le sampleur, 17h-18h, ce sera en podcast pour moi, n'en point douter. Sandy est en ligne avec nous. Si vous connaissez Sandy à Coulommiers, en Seine-et-Marne, employé logistique, un auditeur d'RMC Gold. On a choisi ce matin, Sandy, un des fidèles depuis le premier jour. Ça fait un an que vous écoutez Sandy. On fait le bilan avec vous. Comment ça va, Sandy?
Ah, bonjour à tous déjà.
Salut Sandy. Alors Sandy, auditeur d'RMC Gold.
Ah, depuis le premier jour.
Et qu'est-ce qui vous plaît tant que ça? Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu et qu'est-ce qui fait que vous êtes resté?
Bah en fait, déjà, il y a un an, quand j'ai su que RMC lançait une radio spécialisée musique 80-90, je me suis dit, ça y est, ça, c'est mon rêve qui se réalise, quoi. Et en plus de ça, j'entends que Max, l'animateur que j'écoutais quand j'avais 12-13 ans, fait partie du projet. Je fais, ça y est, c'est Noël, avant l'heure.
Ah. Sans dire, on a presque le même âge. Hein. Ouais. Il est avec vous, ouais. Max, en direct. Moi, j'ai de la chance, je fais de la radio avec Max maintenant, ce matin. Ouais.
Salut Max.
Salut Sandy. Ouais. Non, ça fait plaisir. Il y a du Max, il y a du Gold. Voilà, c'est magnifique. La vie est belle, quoi.
Sandy, vous allez continuer. On vous fera le point dans un an. Hein. De toute façon, on vous réécoutera. Moi, je voudrais quand même apporter une précision. Parce qu'il y a la bande FM, il y a l'histoire des radios, évidemment. Il y a les radios digitales. Et il y en a beaucoup qui émergent. Et d'ailleurs, RMC et la maison en proposent pas mal, y compris des radios éphémères, etc. Mais là, vous avez un truc qui est hyper moderne, hyper inédit aujourd'hui, c'est qu'il y a des humains qui travaillent derrière.
Bah oui.
C'est pas un algorithme qui vous fait la programmation, il y a des vrais programmateurs.
Mais on a le meilleur programmateur de la place de Paris.
C'est mais ça. Faut le préciser parce qu'aujourd'hui c'est facile de lancer un Spotify et d'avoir des trucs.
Il y a plein de radios qui font des radios web, mais la radio web c'est du jukebox. Nous on a vraiment des créneaux horaires. Là on le voit aujourd'hui avec un nouveau créneau à 17h, le morning, moi qui fais le soir évidemment. Donc c'est moi je rêvais que mes petits camarades viennent me rejoindre dans l'aventure. Donc les 1 an tombe très très bien, donc c'est parfait. Et puis l'avantage de ces radios là, c'est que aujourd'hui il y a plus de fréquence par rapport à la FM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai des auditeurs que hier que j'ai eu du Mexique, il y en a des États-Unis, du Canada, évidemment la Belgique. Donc ça, c'est un peu plus proche, mais ça peut aller du monde entier. Il suffit d'avoir l'application. Il y a un petit décalage horaire et ça s'écoute 24 heures sur 24 et assez facilement. Et c'est ça
l'application qui est bien. RMC que vous avez déjà téléchargée. Si c'est pas fait, vous vous dépêchez.
Bah oui.
Il y a RMC Gold et RMC. Comme ça, vous pouvez switcher de l'un à l'autre. Sinon, il y a toutes les plateformes, évidemment. Merci à tous. Alors dans le désordre, merci l'ému, le sampleur, 17h, 18h tous les soirs sur RMC Gold. Merci Max, la libre antenne du lundi au jeudi de 22h à minuit. Bon anniversaire Max.
Merci beaucoup.
Ça fait un an qui bosse sur ce très beau projet de la maison. Et je termine par Mathieu Rouault parce qu'il faut qu'on le libère. Dans 10 minutes, il y a la première des RMC.
Tiens, tu veux un titre? C'est un petit cadeau pour toi. Un des titres qu'on va s'écouter entre 8h et 10h, c'est ça.
Sur RMC et RMC Story avant de le retrouver sur RMC Gold, bien sûr. Bon anniversaire à tous les trois.
Merci.
Travaillez bien, on vous écoute.
Et à tout de suite sur RMC Gold.
À tout de suite sur RMC Gold, 7h51. Dans un instant, la voix de gauche, RMC, c'est vous, Cécile Duflo, parce qu'on est jeudi matin. Bonjour Cécile.
Bonjour Mathieu.
La Cour des comptes tape du poing sur la table. Les aides pour l'achat de voitures électriques ne sont pas suffisamment bien utilisées. Alors que le gouvernement veut relancer son plan d'électrification du pays, vous êtes d'accord avec les sages, Cécile?
Oui, je suis d'accord. 18 milliards, c'est beaucoup. Alors que la filière s'effondre, qu'on achète à l'étranger. Bref, faut faire mieux.
Faut faire mieux. Dans une minute, vous expliquez tout ça sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53 et le bonus RMC, c'est avec vous, Élise. Spirou est de retour.
Spirou, ou plutôt le journal de Spirou. Avec un numéro inédit, sorti hier, et même un tout nouveau personnage, Carmina. Mais ce n'est pas la seule particularité de cette nouvelle édition du magazine lancée en 1938. Les jeunes lecteurs s'en sont peut-être d'ailleurs déjà aperçus. Spirou, à fond l'aventure, a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle. Et c'est une première, mais c'est surtout un poisson d'avril et un moyen de montrer aux enfants et leurs parents la pauvreté de l'IA dans le domaine des bandes dessinées, des erreurs, beaucoup d'incohérences, des illustrations plutôt douteuses. De quoi permettre au rédacteur en chef de mettre à l'honneur ses 300 auteurs, c'est ce qu'il a dit hier à nos confrères belges de Sud Info. Et il l'assure, dans le journal de Spirou, il n'y aura jamais d'IA, ni de près, ni de loin. Fantasio, Lucky Luke et les Schtroumpfs peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles. Leurs bulles resteront 100% humaines.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
Voix de gauche, voix de droite, un jour, puis l'autre. Et ce matin, on est jeudi, c'est la voix de gauche, Cécile Duflo. Bonjour Cécile. Cécile, bonjour, les aides pour les voitures électriques en France sont trop éclatées. C'est ce que dit hier la Cour des comptes dans un rapport. Et vous êtes d'accord avec les sages?
Oui, il y a 18 milliards d'aides qui ont été identifiées. La moitié, en fait, qui sont pour les acheteurs et l'autre moitié pour les producteurs. Sauf que ça ne marche pas. D'abord, c'est pas les ménages les plus modestes qui sont les plus aidés et que la production a beaucoup chuté. Le projet, c'était 2 millions de véhicules produits en France en 2030. On en est à 180 000, donc ça ne marche pas.
Mais qu'est-ce qui aurait pu être fait mieux, Cécile?
Alors déjà, il faut se poser la question du type de véhicule, parce que les gens achètent des petites voitures, mais on produit pas de petites voitures en France. Donc on importe. C'est même pas des voitures européennes. Parce qu'il y a eu un choix stratégique qui a été de faire des grosses voitures, des voitures très technologiques, très lourdes, mais c'est pas le besoin quotidien. Donc il faut absolument se dire qu'on va faire autrement. On doit pouvoir produire des petites voitures en France.
Donc c'est un problème de production.
Oui, je crois pour beaucoup, parce que si on donne des aides pour acheter des véhicules électriques, mais que les seuls qui peuvent s'acheter des véhicules électriques, c'est les plus fortunés et des très grosses voitures, ça marche pas. Et dans l'histoire, on a été capable de faire des petites voitures dans des moments contraints, par exemple après la Seconde Guerre mondiale, c'est la naissance de la 2 chevaux, puis ensuite de la 4L, des voitures peu coûteuses, des voitures très robustes, des voitures sobres, et je pense qu'on a exactement besoin de la même chose. Et pour se rappeler... Si on faisait l'équivalent du prix de la 2 chevaux au moment de sa sortie, ce serait 6 800 euros à peu près, 7 000 euros pour la 4L. Aujourd'hui, la plus petite des Citroën, c'est 3 fois ce prix. Donc, ouais, il faut qu'on arrive à avoir une petite électrique sobre.
Ouais, aujourd'hui, on est très loin des 6 000 euros, effectivement. Alors justement, avec l'explosion aussi des prix des carburants, hein, pas que des voitures, les prix des carburants, vous dites qu'il faut agir et agir maintenant.
Oui, parce qu'il y a une partie des gens qui achètent du coup, ceux qui sont obligés de se déplacer, des voitures d'occasion et des voitures thermiques. Le sujet, c'est vraiment le coût de la voiture, le prix que ça représente dans le budget des ménages, parce qu'en plus, ces voitures plus coûteuses, elles sont aussi plus chères à réparer. Il faut se souvenir que c'est en France qu'il y a eu le premier véhicule électrique qui a roulé. C'était un inventeur qui s'appelait Gustave Trouvé, assez génial. Et la première voiture qui a battu le record des 100 km en 1899, c'était une voiture électrique. Ensuite, pouf, l'électrique a disparu au profit de la voiture thermique avec la dépendance au pétrole qu'on connaît. Donc il y a un vieux slogan qui disait qu'en France, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Et je pense que le sujet maintenant, notamment sur l'argent public qui est dépensé, c'est d'avoir une vraie stratégie industrielle et de faire des petites voitures accessibles, sobres, facilement réparables. On a des ingénieurs brillants, on peut y arriver.
Merci Cécile Duflo, la voix de gauche d'RMC. On vous retrouve évidemment demain, comme tous les vendredis, pour le débat face à vous, l'avocat, la voix de droite, Charles Consigny. À la une du journal de 8h, à suivre 20 minutes d'allocution et un Donald Trump qui annonce que la guerre continue en Iran. Trump qui a fait du Trump, vous l'entendrez. L'économie ensuite, ce sera avec vous Emmanuel Le Chypre. Vous voulez nous rassurer, Emmanuel, ce matin, le choc pétrolier ne sera pas si dramatique.
Oui, vous rassurez notamment après les propos apocalyptiques du patron de l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit qu'on vit un choc qui sera pire que les chocs de 73, 79 et 2022 réunis.
Ouais, vous allez nous rassurer, hein. C'est ça, oui, le projet.
Absolument.
La météo plus à l'ouest, soleil à l'est. Vous restez sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h sur RMC, très bon réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le pétrole qui s'envole, les bourses qui plongent en Asie, l'Iran qui promet une riposte. Voilà l'effet du discours très attendu de Donald Trump cette nuit aux États-Unis. Il a dit que la guerre était presque terminée, mais que les frappes contre l'Iran allaient continuer. On va largement y revenir. On reviendra aussi sur cette information RMC qu'on vous dévoile ce matin sur les dysfonctionnements qui perdurent dans les EHPAD, 4 ans pourtant après le scandale Orpea. Et aussi sur la mort du livreur Cédric Chouviat à Paris, c'était il y a 6 ans. Sa famille, ce matin sur RMC, confirme qu'elle veut engager la responsabilité de l'État.
Il voulait apparemment rassurer. En fait, les marchés ont plongé cette nuit après le discours de Donald Trump.
Oui, les places boursières ont toutes viré dans le rouge. L'Iran promet de riposter. Les cours du pétrole sont repartis à la hausse. Pas rassuré donc par ce qu'a dit le président américain dans son discours à la nation sur la guerre au Proche et Moyen-Orient qui était très attendu. En fait, vous l'avez écouté pour RMC, Alfred Orange cette nuit, il n'a pas fait d'annonce fracassante et la guerre continue.
Oui, ni fin de la guerre, ni envoi de troupes au sol en Iran. Le président américain est plutôt resté dans le rang, mais pressé par la hausse du pétrole et par l'impopularité grandissante de la guerre dans l'opinion publique américaine. Donald Trump a de nouveau promis un dénouement rapide du conflit.
Grâce à nos avancées, je peux dire qu'on est vraiment tout près d'accomplir nos objectifs militaires en Iran. On va les frapper très très durement pendant encore 2 ou 3 semaines pour les ramener à l'âge de pierre. C'est de là où ils viennent.
Une allocution qui a surtout servi à rassurer les Américains en expliquant notamment que le blocage du détroit d'Ormuz n'a pas de conséquences sur l'approvisionnement énergétique des États-Unis. Mais Donald Trump s'est quand même permis une pique envers tous ces pays dépendants du pétrole sortant de ce détroit. Le président américain les prie une fois encore d'aller, je cite, s'occuper d'Ormuz pour le débloquer.
Bon, et finalement, ce qu'on retient, c'est que Donald Trump a commencé son allocution cette nuit
par quelque chose qui n'a rien à voir avec la guerre, en félicitant les 4 astronautes de la NASA qui se sont envolés cette nuit pour la Lune. 3, 2, 1, booster ignition. Voilà, c'était parti. C'était vers minuit et demi, à bord de la fusée Artemis. Ils ont décollé pour une mission de 10 jours. C'est un événement, ça faisait 54 ans que la NASA n'avait pas lancé de mission vers la Lune. Alors pour revenir sur les conséquences de la guerre au Proche et au Moyen-Orient, ce matin, les prix continuent de s'envoler à la pompe. Chez nous en France, le sans-plomb 95 atteint le seuil des 2 euros, selon le site carbu.com. Et le prix du gazole utilisé par les pêcheurs a carrément doublé en l'espace d'un mois. Certains ne sortent même plus leur bateau. Rachel Sadodine, vous avez interrogé les pêcheurs de la Bretagne jusqu'à la Méditerranée pour RMC. Ils vous disent qu'on va peut-être bien manquer de poissons. Bientôt, expliquez-nous pourquoi.
Moins de bateaux en mer, cela veut dire moins d'arrivées de poissons dans les bacs des criées. Notamment à Boulogne-sur-Mer, le premier port de pêche français produit de moins en moins. Aymeric Chan, secrétaire général du syndicat des mareyeurs du Boulonnais.
Il y a clairement une baisse de l'approvisionnement, de l'ordre de 20 à 25%, et les cours ont tendance à augmenter et le niveau d'augmentation est dans les mêmes proportions. Les dos, les filets de gros poissons blancs, dos de cabillaud, filets de cabillaud, on est plutôt sur des tarifs qui sont élevés.
Plus bas, à la Turballe, en Loire-Atlantique, le prix du merlu a augmenté de 30% depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le nombre de tonnes a été divisé par 3 par rapport à la même période l'an dernier. Des baisses d'approvisionnement qui ont contraint hier soir la criée méditerranéenne de Sète à fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre. Situation particulièrement tendue dans les ports dont le plus gros de la flottille est composé de chalutiers circulant en haute mer. Ces navires massifs consomment plus de carburant et subissent donc de plein fouet la hausse des prix. D'autres régions subsistent grâce à la pêche à la ligne, en casier, au filet, pratiquée sur de plus petits bateaux moins gourmands en gazole marin.
Alors combien vont coûter les billets d'avion là pour les vacances qui arrivent, celles de printemps et aussi évidemment celles d'été? Les compagnies aériennes chinoises annoncent ce matin qu'elles vont appliquer désormais une surcharge carburant sur les vols intérieurs. Les brésiliennes, les compagnies prédisent déjà des conséquences graves. Il y a un géant du secteur, géant brésilien, qui a déjà annoncé une flambée de plus de 50% pour le kérosène au mois d'avril.
Sûr que tout le monde n'a pas la chance de prendre l'avion pour partir en vacances, mais ceux qui n'avaient pas encore réservé en sont pour leurs frais là ce matin. Il est 8h04 sur RMC. On vous révèle ce matin que rien n'a changé dans les EHPAD depuis le scandale de l'affaire Orpea il y a 4 ans.
Oui, Solène Leroux, c'est vous qui nous révélez cette information depuis ce matin sur RMC. Les dysfonctionnements, les maltraitances sur les personnes âgées qui continuent donc avec une centaine de saisines auprès de la Défenseur des droits l'année dernière pour des cas donc de maltraitance en EHPAD.
Et dans ces plaintes, on retrouve surtout des maltraitances du quotidien, pas assez de douches, des repas mixés pour qu'ils soient mangés plus vite, et même des résidents abrutis avec des médicaments pour qu'ils soient plus faciles à gérer. C'est déjà inquiétant en soi, mais on découvre aussi ce chiffre. 7% de ces saisines n'aboutissent pas par peur des représailles. Laurent se souvient que sa mère la ressentait.
Elle était comme une petite fille qu'on allait gronder en fait. Comme un enfant qui revient de l'école, qui a subi une pression de la part des camarades ou de la part de l'enseignant, mais qui a besoin de le dire, mais qui ne veut surtout pas qu'on aille se plaindre de peur des représailles.
Sa maman est décédée il y a 6 mois par manque de soins, selon elle, conséquence directe du fait d'avoir parlé. Ce n'est pas toujours facile de dénoncer, alors voici quelques clés si vous vous reconnaissez. Commencez par alerter l'EHPAD via la direction et les conseils de la vie sociale. Vous pouvez aussi compter sur des associations comme Phare, et puis pensez à la Défenseur des droits et au 3133, le numéro national contre les maltraitances. Et évidemment, si vous faites face à des représailles, il faut porter plainte.
C'était sur RMC un petit peu plus tôt ce matin, la colère de la famille de Cédric Chouvia. Souvenez-vous de ce livreur qui était mort après un contrôle de police à Paris en 2020, plaqué au sol, étranglé. Il avait pourtant répété « j'étouffe » avant de faire un malaise et de mourir donc 48 heures après. 6 ans après cette affaire, sa famille veut engager la responsabilité de l'État car il y a eu usage disproportionné de la force, selon la Défenseur des droits. Et maître Ariel Halimi, avocat de la famille Chouvia, ce matin donc sur RMC.
Il met en cause de manière sévère la Défenseur des droits, le ministre de l'Intérieur, enfin tous les ministres de l'Intérieur successifs, en disant une chose extrêmement importante, c'est que ils ont laissé 4 personnes qui ont tué un père de famille continuer à exercer et en liberté et sans aucune procédure disciplinaire. Rappelons que Gérald Darmanin, qui est devenu d'ailleurs depuis ministre de la Justice, s'était moqué de Cédric Chouvia. Il avait dit « quand j'entends parler de violence policière, je m'étouffe ». Le ministère de l'Intérieur, comme le ministère de la Justice, sont responsables de l'absence de justice à ce jour et nous réclamons qu'il y ait une audience extrêmement rapidement.
Audience envisagée à l'automne, indique le parquet de Paris. Il y a du nouveau ce matin à propos des Jeux Olympiques d'hiver que la France accueillera en 2030 dans les Alpes. On ne sait toujours pas qui accueillera précisément les épreuves de glace. Ça devait être à Nice, mais le nouveau maire, Éric Ciotti, est réticent. La nouveauté, Diane Carlotti, c'est que la ville de Lyon propose donc de les récupérer.
Et oui, le maire Grégory Doucet en a fait l'annonce suite à un entretien
avec la présidente de la métropole. Ils souhaitent tous deux accueillir à Lyon les sports de glace en 2030. Et pour cela, la ville a des arguments solides. Les patinoires Barabans et Charlemagne, la halle Tony Garnier ou encore d'autres équipements déjà présents dans la métropole. En 2028, la LDLC Arena accueillera même les championnats du monde de hockey comme une potentielle répétition générale. Jusqu'ici, le patinage artistique, le hockey sur glace, le short track et le curling étaient prévus à Nice, tout comme l'installation d'un village olympique et d'un centre des médias. Mais le nouveau maire niçois, Éric Ciotti, s'est positionné contre la transformation temporaire du stade de l'OGC Nice en patinoire et contre la construction d'un nouveau complexe olympique. Depuis, l'édile a tout de même rappelé être extrêmement attaché à accueillir les épreuves de glace dans sa ville. La carte définitive des sites, elle, doit être annoncée fin juin.
Bon, et puis cette question aussi ce matin, la France doit-elle s'inspirer du Brésil ?
Vous demandez ?
Non, ça c'est pas brésilien. Le Brésil, le Brésil qui vient d'adopter une loi pour mettre en place la garde partagée des animaux de compagnie en cas de séparation ou de divorce. C'est très sérieux.
Mais bien sûr que c'est très sérieux.
Le Parlement brésilien a dû légiférer et dit pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu une hausse de litiges en la matière. Il n'y a pas de loi pareille en France, d'où cette question. Est-ce qu'on doit s'en inspirer ?
Comment ça se passe ? Non, mais c'est vrai que c'est bien sûr que c'est une question sérieuse. C'est un membre de la famille.
Moi, je pense qu'il faut s'en inspirer.
En tout cas, il faut.
Qui paye les croquettes, qui garde le chat, quel week-end.
Je peux me faire engueuler, là. Mais non, mais je pourrais faire. J'avais pas cette info. Je viens de le préciser. Je pourrais partir en débat sur ce seul sujet. Mais quand invité, je vais vous libérer.
Comme s'il y avait pas
merci beaucoup. Comme s'il n'y avait pas assez de problèmes comme ça. Vous l'avez entendu, il est là. C'est Emmanuel de Chypre pour l'économie. Il est 8h09.
RMC, Apolline Matin.
Le Chypre d'affaires.
Alors Emmanuel, vous ne partagez pas ce matin le pessimisme du directeur de l'Agence internationale de l'énergie, pour qui la guerre en Iran est un choc sans précédent pour l'économie mondiale.
Ah bah, il est assez radical, hein, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie. Il dit, aujourd'hui, grosso modo, on perd 12 millions de barils de pétrole par jour. C'est plus que lors des deux crises pétrolières de 73 et 79 réunies. Des pertes pires aussi qu'en 2022, lors de l'interruption des flux de gaz russes. Ces crises avaient entraîné une récession mondiale. Donc, comprenez, le choc énergétique que nous vivons aujourd'hui, c'est pire que les récessions de 73, 79 et 2022 réunies. Or, ce diagnostic, notamment pour nous, pays européens, et pour nous, la France, est beaucoup trop alarmiste pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes beaucoup moins dépendants du pétrole qu'il y a 40 ans. Aujourd'hui, dans 1 euro de PIB, il y a 3 ou 4 fois moins de pétrole qu'en 1972. C'est pareil en Chine, c'est pareil aux États-Unis. Songez qu'aux États-Unis, on consomme la même quantité de pétrole qu'il y a 40 ans, avec un PIB 4 fois plus élevé qu'à l'époque. Et puis, les effets des chocs pétroliers, ils avaient été très largement amplifiés à l'époque par les erreurs de politique économique. Les banques centrales, les gouvernements avaient laissé filer l'inflation, les salaires, et on avait créé du chômage massivement. Rien de tel ne se produira aujourd'hui, les banques centrales veillent.
Bon, rassurant, est-ce que la France dépend tant que ça du Moyen-Orient pour son pétrole et son gaz ?
Mais en plus, il y a cette crainte que finalement on ne puisse plus être approvisionné parce qu'on est très dépendant du Moyen-Orient, mais pas du tout. Notre pétrole, il vient à 38% d'Afrique, d'Algérie, de Libye, du Nigeria, à 22% des États-Unis, 12% du Kazakhstan, 12% de la mer du Nord, c'est moins de 10% de notre pétrole qui vient du Moyen-Orient. Et alors le gaz, c'est encore pire, hein. 40% vient de Norvège, 20% des États-Unis, il n'y a que 3% du gaz qui vient du Qatar. Donc on n'est pas si dépendant que ça non plus du Moyen-Orient. En fait, le patron.
Faut pas confondre les cours et les stocks, quoi.
Voilà, exactement. En fait, le patron de l'AIE, c'est très clair, il s'adresse surtout au reste du monde et notamment à l'Asie. L'Asie qui, dans les années 70, était un pays qui n'était pas industrialisé, qui consommait très peu de pétrole, qui n'a pas connu les chocs de l'époque. Donc oui, pour l'Asie, effectivement, qui aujourd'hui consomme la moitié du pétrole mondial et assure la moitié de la production industrielle mondiale, c'est le premier vrai grand choc énergétique. Regardez les mesures radicales qui sont prises dans ces pays.
Et c'est deux dont on parle, les pays d'Asie en l'occurrence, pour qui ce choc est dur. Comme tous les matins, les prix de l'énergie avec vous. Alors simplement, Emmanuel, cette nuit, il y a Donald Trump qui parlait. Apparemment, il n'a pas tellement rassuré après sa prise de parole.
Non, il n'a pas rassuré. La preuve, le prix du pétrole a repris quasiment 7 dollars dans la nuit. On est à 108 dollars et 40 cents aujourd'hui, le baril de Brent. On était à un peu moins de 102 hier. Alors, ça va beaucoup mieux, par contre, sur les prix du gaz. Hein, le gaz, on est à 47,3 euros le mégawattheure. On était à 54 hier et on était à... Le pic, c'était 61. Et puis, sur les carburants, il y a toujours un décalage. Sur le gazole, on est à presque 2,25 toujours, ça bouge pas beaucoup. Et le samplon 95, ça monte même un petit peu de 3 centimes par rapport à il y a 3 jours.
On s'installe tranquillement au-dessus des 2 euros pour les deux.
Absolument,
pour les deux. Tranquillement comme un palier. Merci beaucoup Emmanuel Lechypre. Il est 8h12 sur RMC. Dans un instant, Arnaud Demange nous rejoint. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face ce matin, c'est l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarqa, après la prise de parole cette nuit de Donald Trump, la guerre en Iran qui se poursuit. Rendez-vous à 8h30 sur RMC et BFM TV. Juste après, face à Canteloup, Nicolas Canteloup en direct à 8h50, ça vous le savez, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours de manche, donc aujourd'hui aussi.
Ben oui.
Bonjour Arnaud Demange.
Tous les jours inclus, on a dit. Bonjour à tous, bonjour les amis. Mathieu, bonjour, ou plutôt. Hanyeong Haseyo. Voilà, ça veut dire bonjour en. Coréen du Sud. Ah. Coréen du Sud. Voilà, t'es presque. Car Emmanuel Macron est en Corée du Sud aujourd'hui. Alors il s'adressera aux Coréens en leur disant: chers Coréens, j'aimerais citer quelques mots de votre plus grand poète. Najenun Tasarun Inganjeonging Yeoja. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Whoop, whoop. Hey, sexy lady. Whoop. Alors, dans l'agenda du président.
Je me demandais jusqu'où il allait dans la chanson.
Je peux faire toute la chronique comme ça, mais j'ai peur de rien. Sauf que dans l'agenda du président, il y a plein de choses, notamment une rencontre avec les représentants de la K-pop. C'est la pop sud-coréenne. Alors, il y aura pas la pop nord-coréenne, hein. C'est un genre un peu différent, si vous voulez, c'est moins coloré. C'est plus martial. Tiens, on va faire un petit jeu. Pop de Corée du Nord ou pop de Corée du Sud? Attention, premier extrait.
K-pop.
Corée du Sud. Corée du Sud. Ouais. Corée du Sud. Attention, deuxième extrait.
C'est subtil.
La différence n'est pas évidente, ça s'entend à peine, mais vous avez trouvé, c'est Corée du Nord. Donc voilà, donc vous entendez, c'est pas exactement des petites meufs qui embrassent des laboubou. La K-pop, ce sont des jeunes chanteurs et chanteuses interchangeables, un peu comme les premiers ministres sous Macron, mais en moins moche. Voilà. Le corps nu, tu le mets pas dans les BTS, quoi. Il n'y a pas des Coréennes qui sont là. Si, si, donc Macron va écouter de la K-pop toute l'après-midi. Donc c'est ça. Merci. C'est affreux. Et alors vous vous en servez pour disperser les manifestations? Non, même pas. Mais c'est vraiment de la musique parce que nous on a Michel Sardou. Michel Sardou, c'est autre chose. Faudrait qu'on vous envoie de la French pop. Vous connaissez ça? Ça c'est français. C'est les musclés. Voilà.
Blackpink featuring les musclés.
Pareil, on
c'est
achète.
Un truc, hein.
Et Gilbert Montagnier, vous connaissez Gilbert Montagnier? Faudrait qu'on vous l'envoie. Faudrait qu'on vous envoie Patrick Bruel. Ah non, ça on va avoir des emmerdes si on fait ça.
Ça s'arrête. Donald Trump s'est exprimé cette nuit à la télévision américaine.
Ouais, vous avez vu, il a vanné Macron. Vous avez vu ça? Il a dit, sa femme le traite très mal, il se remet à peine de la droite qu'il a reçue dans la mâchoire. Oui, bah voilà, contrairement à Trump, Macron, il se fait encore toucher par sa femme.
Oh, oh.
Boum.
Allez. Ah ouais, ça clash.
Ah ouais.
On va m'accuser d'être macroniste à fond maintenant. Alors, Trump nous a offert un bref résumé de son succès en Iran. Il a dit, on va gagner, c'est bientôt fini, on a juste besoin de l'OTAN pour nous aider à gagner, même si on va gagner de toute façon, parce qu'ils veulent pas nous aider, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'eux parce qu'on a déjà gagné. Alors, dans 2 mois, ce sera fini. Je négocie un cessez-le-feu, mais je vais tout détruire et envoyer des troupes au sol, même si on a déjà gagné, parce que l'Iran a plus l'arme nucléaire, et on va les forcer à accepter un deal pour plus avoir l'arme nucléaire qu'ils ont déjà plus, même si on a rompu le deal qui existait. C'est très clair.
En tout cas, c'est très bien résumé.
Mais c'est parfaitement résumé.
On met les feuilles, là.
Non, c'est vraiment le fil. J'ai tiré sur le fil d'une pensée construite.
Ça vous arrive.
Le Pakistan s'est proposé pour jouer le rôle de négociateur entre l'Iran et les États-Unis. Alors, le Pakistan, c'est quand même étonnant. Moi, j'aurais plutôt pensé à la Suisse, tu vois, en pays neutre. En plus, c'est à mi-chemin entre Téhéran et Washington. C'était pratique. Tu mettais Trump et Khamenei au bord du lac Léman à manger une fondue. Et le premier qui fait tomber son crouton, il a perdu la guerre.
Ah ouais.
Et voilà. Après, pourquoi pas le Pakistan? En plus, ça peut marcher avec Trump parce que la capitale du Pakistan, c'est Islamabad. Donc en anglais, l'islam, c'est pas cool. Donc Trump, il va arriver. Oh, je suis d'accord avec vous. Islam is bad. Oh, very bad. Islamabad. Non, en fait, c'est pas une bonne idée. Parce que Islamabad, c'est comme si le Vatican s'appelait Cato Nul, quoi. C'est très bizarre. Alors, tant qu'on parle de Trump, il a demandé à apparaître sur le billet du dollar. Alors, pas lui, sa signature, juste pas sa tête, parce que même lui, il sait. De toute façon, c'est sa marotte de tout mettre à son nom. Il a demandé la même chose pour l'aéroport de Palm Beach, en Floride. Alors, c'est fréquent, ça, les aéroports qui ont des noms de présidents. On a Roissy Charles de Gaulle, New York JFK, tout ça. je comprends pas vraiment pourquoi. Autant, tu vois, une piscine Lormano-Dou.
Ouais,
oui,
ouais,
elle a passé sa carrière à nager, mais des aéroports avec des noms de présidents, c'est genre, ils ont passé leur carrière à voler. Il y a un truc pas clair, je trouve. Il y a un double sens. À la limite, l'aéroport Snoop Dogg, tu vois. Parce que tu décolles vraiment. Ce serait stylé.
Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir à l'aéroport de Los Angeles, Snoop Dogg. Snoop Dogg! Le temps est nuageux et nous allons nous poser en planant. Je vous rappelle qu'il est autorisé, voire encouragé, de fumer dans les toilettes. Allez, bon séjour à tous.
Sans transition, oui, on est aux États-Unis, on y reste. Xavier Dupont de Ligonnès, recherché au Texas, il aurait été aperçu avec un labrador noir.
Ouais, il n'arrivait pas à assumer une famille, il prend un chien, c'est Brigitte Bardot. Il aurait déjà été vu en 2020 dans le comté, et là ils ont relancé les recherches. On a entendu. On a failli retrouver Xavier Dupont de Ligonnès avant Raphaël Arnaud, hein, ça s'est joué à pas grand chose. Moi je pense qu'il se cache toujours en France, Dupont de Ligonnès. Je crois qu'il est dans les bureaux des adhésions de Place Publique, de Raphaël Glucksmann. C'est la bonne plan qu'il n'y a jamais personne. Après, je comprends qu'il soit parti au Texas, parce que voilà, nous, on le cherche depuis 15 ans. Ça nous paraît fou, un gars qui a tiré sur toute sa famille. Alors qu'au Texas, c'est un dimanche comme un autre, tu vois. Il y a une photo sur laquelle on l'aperçoit. Il a un chapeau de cow-boy. Il vit sa meilleure vie. En fait, il avait juste besoin d'un pays qui autorise le port d'armes. Il a tiré sur 4 personnes avec succès. C'est même grâce à ça qu'ils lui ont filé une green card. Voire même un job dans la police locale. Fallait remplacer Chuck Norris dans Walker Texas Ranger. C'est lui, je m'attendais pas à lui comme candidat. C'est lui. Et à demain.
Arnaud Demange, qu'on retrouve à tout moment en podcast sur RMC et rmc.fr. Vous restez bien avec nous dans un instant sur RMC et BFM TV. L'invité de Marie Chantresse, c'est Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France. 8h21.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabillet.
L'armée iranienne menace les États-Unis d'attaques écrasantes après le discours cette nuit de Donald Trump. Le président américain promet de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Pendant une vingtaine de minutes, il a assuré qu'il frapperait le pays extrêmement durement pendant encore 2 ou 3 semaines. Et concernant le détroit d'Ormuz, il va s'ouvrir naturellement, dit Donald Trump. Pas d'annonce fracassante, mais cela suffit à dérégler une nouvelle fois les marchés, et notamment le cours du pétrole. Les compagnies aériennes chinoises annoncent qu'elles vont appliquer une surcharge carburant sur les vols intérieurs. Le gouvernement lui promet d'utiliser certaines recettes fiscales supplémentaires sur le carburant pour financer l'électrification de l'économie. Les aides sur le prix de l'essence pourraient aussi bientôt s'étendre au métier du soin, selon la porte-parole du gouvernement. Plus de peur que de mal à Lyon, où environ 150 élèves ont dû évacuer de leur collège, lycée et de leur internat à cause d'un incendie. Hier soir, ça s'est passé dans le quartier de la Croix-Rousse, au Chartreux. Un surveillant a été hospitalisé à cause des fumées toxiques. L'origine du feu n'est pas encore connue. Décollage réussi pour Artemis, l'équipage de la NASA en chemin vers la Lune. Ce sera le premier à en faire le tour depuis plus de 50 ans. L'objectif pour 2028, c'est une présence humaine sur la Lune. Et puis les épreuves de patinage se dérouleront-elles à Lyon pendant les Jeux Olympiques d'hiver de 2030? C'est la proposition du maire de la ville, Grégory Doucet, alors que le nouveau maire de Nice, Éric Ciotti, remet en question le projet de les accueillir dans sa ville. C'est pourtant ce qui est prévu. Un temps pluvieux encore ce matin sur la moitié ouest, mais des éclaircies arriveront en journée. Plein soleil sur la moitié est, avec encore pas mal de vent près de la Méditerranée. Les températures sont en hausse, elles seront en fin de saison cet après-midi. 12 à Lille, Rouen et Aurillac, 14 à Rennes, Bourges, Nancy et Biarritz, 15 à Paris et Lyon, 17 à Marseille, Nice et Bastia, jusqu'à 20 degrés à Montpellier.
C'était la météo sur RMC. Bonne journée.
C'était le rappel des titres. Merci Clara Gabillet. Dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Marie Chantrey qui reçoit Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est quasiment 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Joshua Zarka.
Bonjour.
Vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France, je le disais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre parole, vos mots comptent, surtout après l'allocution, je le disais, très attendue du président américain. On va parler de ses répercussions immédiates. On l'a vu, ses salves de missiles à nouveau tirées sur Israël, ses menaces très fortes iraniennes. Une prise de parole du président américain sur laquelle beaucoup d'experts ces dernières heures avaient spéculé. Mais finalement, assez peu de choses nouvelles. Après des rumeurs d'arrêt de la guerre ou d'autres annonces majeures, il n'en a rien été. Pas de sortie du conflit rapide, mais un calendrier frappé sans relâche l'Iran pendant encore 2 à 3 semaines. Est-ce que vous êtes soulagé ce matin ?
C'est pas une question de soulager, vous savez. Je le répète assez régulièrement. Cette coordination qu'il y a entre nos deux pays, entre nos deux dirigeants et entre nos deux armées est une coordination qui est assez totale. Je parlais ici sur votre plateau il y a quelques semaines du fait que nous avions, quelques jours, que nous avions besoin de quelques semaines encore. Mm-hmm. Et c'est exactement finalement ce que dit le président Trump.
C'est le même calendrier. Vous partagez ce même calendrier.
Il y a un calendrier. Alors, il y a des fois des tendances à chercher, que ce soit sur des médias européens ou d'autres, à changer les différences, à chercher une désaccord entre nos dirigeants. Ce n'est pas le cas. Nous sommes une armée, il y a une décision qui est prise par les deux dirigeants, mm-hmm. par les deux chefs des armées, et nous sommes entièrement coordonnés. Et comme je le disais auparavant, nous avons besoin encore de quelques semaines, un petit nombre de semaines pour en finir avec toutes les cibles militaires de cette guerre.
Et donc vous dites ce matin, fin de la guerre, comme le président américain, dans 2-3 semaines?
Je dis que la fin des cibles militaires et nucléaire iranienne dans 2 à 3 semaines.
Et on va y revenir dans le détail. Pardonnez-moi juste ce matin, encore une fois, vous dites certains médias occidentaux, européens, américains aussi. Souvent très bien informés. Et vous le dites aussi, il y a une coordination totale. Est-ce que ces dernières heures, à votre connaissance, il y a eu des contacts directs entre le Premier ministre israélien, le président américain ou la Maison-Blanche pour dire finalement un arrêt de la guerre serait une folie et vous ne pouvez pas nous lâcher aujourd'hui?
Je suis incapable de vous dire cela. Les discussions qu'il y a entre le Premier ministre et le Président sont vraiment des discussions quotidiennes. Ils se parlent régulièrement. Je n'ai pas de rapport à ces sujets qui viennent de Jérusalem et disant on a parlé à cette heure-ci, etc., etc. Non. Mais vous parliez auparavant, si je peux me permettre, des missiles qui ont été tirés par les Iraniens.
Encore une fois ce matin, dans la banlieue de Tel Aviv.
Il ne faut pas oublier, et c'est important de comprendre, qu'entre le maquillage et l'interview, 30 missiles ont été tirés du sud du Liban contre le nord de mon pays. Entre le maquillage et 30 missiles par le Hezbollah.
En l'espace donc de 10 minutes.
10 minutes. Et donc, ça n'arrête pas. Mm. Il faut comprendre, c'est une guerre. Et en plus, on va parler du Liban, j'imagine. C'est une guerre qui, au Liban, nous a complètement été imposée par le Hezbollah. Mm. Alors oui, les Iraniens essayent de continuer à tirer. Ils ont tiré hier, c'est la fête de Pâques, qui est une fête.
La fête de Pessah, en effet.
La fête de Pessah, c'était le Seder, une fête très importante chez les Juifs. Et en venant ici, je me suis rappelé de quelque chose, d'une des prières qu'on a dit hier soir, c'est ce qu'on répète à chaque Agada, chaque année, c'est que dans chaque génération, il y a ceux qui essayent de nous détruire. Mmh. Et c'est seulement par intervention divine, et là j'ajouterai aussi de l'IDF, que nous survivons. Et pendant que nous disions cette phrase chez moi hier soir, pendant le CEDER, des dizaines de missiles iraniens tombaient sur mon pays.
Il y a une forme, justement, peut-être de lassitude de l'opinion publique israélienne.
Non, parce que, vous savez, c'est pas que le régime iranien nous a donné une option, a ouvert une petite porte disant « nous pourrons vivre ensemble ». S'il y avait cette porte qui avait été ouverte, ils sont à 1200 km de notre pays, nous n'avons aucun problème avec le peuple iranien, bien au contraire. C'est un peuple avec lequel nous sommes très proches. Donc ils sont à 1200 km, nous n'avons aucun problème avec eux. S'ils avaient décidé de vivre en paix avec nous, il n'y aurait eu jamais aucun problème. Ils ont dit d'une façon très claire, ils ont répété d'une façon très claire, à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, notre but est de détruire Israël.
La destruction d'Israël, donc reste une menace existentielle. Exactement. Encore aujourd'hui. Sur le piège de l'escalade quand même, Joshua Zarqa, 2 à 3 semaines supplémentaires, vous nous le redites ce matin, sans doute le but de guerre sera atteint dans ce calendrier-là. Mais néanmoins, ce sont des mots qui sont répétés à peut-être plus grande échelle. Est-ce que finalement c'est une guerre sans fin dans laquelle vous vous êtes embarqué ?
Non.
Vous n'y croyez pas ?
Non, pas du tout. Non, une guerre sans fin serait si, par exemple, nous n'étions pas arrivés à plus de Par exemple, dans les lanceurs, nous sommes, par rapport à ce qu'ils avaient au début de la guerre des 12 jours et aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% de tous les lanceurs de missiles qui ont été détruits. Donc nous avançons avec nos cibles militaires. Nous avançons bien plus.
90%, vous nous le dites ce matin,
par rapport à ce qu'ils avaient avant la guerre des 12 jours.
Et sur leur site de production de missiles ?
La grande majorité a été complètement détruite, l'acide de production. Donc on avance au-delà de notre calendrier militaire. Mais c'est vrai que n'oublions pas, c'est un pays qui avait une infrastructure militaire énorme. Donc c'est pas quelque chose qui peut se terminer, surtout quand il n'y a pas d'intervention terrestre, qui peut se terminer en une ou deux semaines.
Certains experts disent que finalement, clamer victoire, parce que c'est ce que aussi dit Donald Trump hier, en disant tout n'est pas atteint, mais finalement tout va dans le bon sens. C'est finalement la signe que cette guerre va continuer et qu'il n'y a pas d'objectif clair. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
Je pense qu'il y a une tendance, des fois qui m'étonne, c'est un espèce d'anti-américanisme qu'on voit sur tous les plateaux. Les gens essaient de trouver la faiblesse des États-Unis dans cette guerre. Les États-Unis vont perdre, etc. Que je ne comprends pas, franchement, parce que c'est quand même un pays, je parle des États-Unis, pas d'Israël, qui est allié de la France, qui est à la tête de l'Occident. Et pourtant, certains cherchent à trouver, voilà, la faiblesse des États-Unis qui vont perdre contre un régime terrible.
Qui est allié de la France, le Schwarzarka, quand on voit les déclarations récentes du président américain, même de certains responsables israéliens? On peut en douter quand même.
Non, je pense que je représente Israël et je pense que les déclarations que nous avons faites sont très claires et très responsables. Et nous n'attaquons jamais personnellement qui que ce soit, certainement pas le président Macron. Mais il y a eu des choix qui ont été faits par le gouvernement français ces derniers temps, qui pour nous prouvent que la France ne se définit pas comme un ami d'Israël.
Sur la question précise du régime iranien, Donald Trump le dit encore, l'objectif de cette guerre n'a jamais été de changer le régime iranien. Est-ce que ce n'est pas une manière de réécrire un peu l'histoire quand même?
Je pense que nous l'avons dit d'une façon très claire, en tout cas je l'ai dit d'une façon très claire depuis le début de cette guerre. Notre but est d'affaiblir, un des buts de cette guerre pour nous est d'affaiblir ce régime suffisamment pour que les Iraniens puissent prendre le contrôle de leur pays et puissent prendre le contrôle de leur destinée et enfin vivre en paix et sans craindre de sortir dans la rue, et c'est avec les cheveux qui ne sont pas suffisamment couverts, ou sans craindre de chanter dans la rue hommes et femmes ensemble et se faire tuer par des barbus qui n'acceptent pas cela comme concept de
liberté. On en est très loin quand même aujourd'hui, et selon certains renseignements américains, les successeurs, en tout cas ceux qui composent aujourd'hui le régime, seraient peut-être même plus durs
Il y a une grande différence entre les successeurs possibles à leurs prédécesseurs, donc au Khamenei, au guide qui a été éliminé le premier jour de la guerre, et etc.
Et à son fils, donc,
et à
désormais.
Son fils, où on ne sait pas dans quel état il est, et si vraiment c'est lui qui dirige les choses. Et le fait que les Iraniens peuvent aujourd'hui peut-être sortir plus librement parce qu'il y a beaucoup moins de gardiens de la révolution dans les rues. C'est vrai qu'ils sont très violents, ils sont toujours très violents et ils tuent les Iraniens. Mais il y a un sentiment, je pense qu'il y a un début de sentiment de pouvoir se débarrasser du joug de ce régime terrible.
Vous pensez que ça c'est possible aujourd'hui, encore une fois?
Je pense que oui. Je pense que fondamentalement, je pense que oui. Parce que vous savez, c'est un peuple qui est un peuple extraordinaire, un peuple millénaire, qui a besoin de cette liberté, qui veut cette liberté et qui fera tout pour la trouver.
J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous nous disiez, ces 10 minutes qui vous ont finalement lié entre le maquillage, c'est l'anecdote, et ce plateau des dizaines de missiles lancés. Vous parliez là du Hezbollah, mais l'Iran aussi a encore une fois, juste après le discours terminé, continué à lancer des missiles et à frapper Israël. Notre reporter sur place parlait d'une nouvelle journée de guerre, comme depuis plus d'un mois maintenant en Israël. Je vous parlais de la lassitude de l'opinion publique. Vous dites qu'elle est toujours derrière son armée, toujours derrière son gouvernement?
Oui, bien sûr, parce que c'est pas qu'il y a une option. C'est pas que nous pouvons dire maintenant on ne va pas faire cette guerre, on va s'arrêter.
Il n'y a pas d'autre choix.
Le régime, ce qui reste de ce régime, ce qu'il y avait auparavant et ce qui reste de ce régime ne veut pas de l'existence d'Israël au Moyen-Orient ou en général. Et donc, nous sommes bien obligés de nous débarrasser de cette menace existentielle qui existe contre nous. Alors, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Est-ce que je vois mes enfants hier? Certains de mes enfants sont chez nous, ils ont fait la fête avec nous hier soir, mais deux de mes filles étaient là-bas. Elles nous envoient des photos pendant toute la soirée, elles étaient dans les abris parce qu'il y avait des missiles qui tombaient continuellement. Et donc, bien sûr, c'est très difficile.
Très difficile, et en même temps, vous, le gouvernement israélien, vous nous le redites encore ce matin, que vos objectifs sont en passe d'être quasiment à 100% remplis, notamment sur la destruction des missiles iraniens. Mais force est de constater de jour en jour qu'ils en ont encore la capacité et qu'ils en ont encore.
Ce qui prouve que, vous savez, c'est un pays très riche qui a investi des milliards, des centaines de milliards de dollars, non pas dans la population, non pas dans la construction d'hôpitaux, non pas dans le bien-être de leur propre population, mais dans des tunnels sous des montagnes énormes pour justement cacher toutes leurs capacités balistiques, etc. Et c'est pour ça que c'est devenu un pays appauvri. Vous savez ce qui s'est passé en janvier, les émeutes de janvier qui ont justement causé la mort de presque 40 000 Iraniens. Elles étaient causées par le fait que justement les Iraniens, le régime iranien avait investi tout son argent, tout ce qu'il avait, toutes ses finances dans la construction de ces bases qui sont enterrées.
Et absolument rien dans la population et dans le pouvoir d'achat de sa population. Lassitude de l'opinion, vous me le dites, il n'y a pas d'autre option. Juste une question rapide sur l'état de l'armée israélienne, avec des mots qui ont particulièrement marqué le chef d'état-major, qui le dit, Tsahal, l'armée israélienne donc, est en train de se diriger vers un effondrement interne. Peut-être trop de fronts menés aujourd'hui par l'armée israélienne. Qu'en est-il? Et que dites-vous ce matin sur cette réalité?
D'abord, c'était une discussion, c'est un rapport qui n'est pas un rapport officiel, donc c'est difficile pour moi d'en parler, une discussion qui était au sein du cabinet, mais il faut dire qu'il y a aujourd'hui une discussion très importante en Israël qui ne parle pas de cette guerre, mais qui parle de la participation de certains publics israéliens à l'effort militaire. C'est vraiment une instruction interne, une discussion interne sur le statut des ultra-orthodoxes, etc. Et je pense que si effectivement le chef d'état-major aurait dit ce qui est dit.
Vous le mettez en doute encore ce matin sur l'état de l'armée israélienne?
Non, sur l'état de l'armée israélienne, oui, je le mets en doute.
Où il manquerait aujourd'hui 15 000 soldats.
Non, mais justement, cette discussion, le fait qu'il manque des soldats, est fait dans le cadre du fait que il y a une partie de la population israélienne qui ne participe pas à l'effort militaire à cause du fait qu'ils vont faire des études, etc., des études religieuses. Et c'est ce qui a été dit par le chef d'état-major, si effectivement ça a été dit, parce que encore une fois, je n'ai pas vu de rapport officiel à ce sujet, aurait été dit dans ce cadre, c'est-à-dire, il est impossible pour Israël d'accepter qu'il y ait deux genres de population. Il faut comprendre la politique israélienne pour essayer de comprendre ce qui a été dit là.
Monsieur l'ambassadeur.
Je ne dis pas que cet effort militaire n'est pas difficile pour la population, n'est pas difficile pour l'armée. C'est une guerre longue, difficile, et ça fait 2 ans et demi que nous sommes en guerre.
2 ans et demi et avec un objectif, vous nous le redites encore ce matin, peut-être de l'arrêter dans 2 à 3 semaines. Une question rapide, majeure aussi quand même, sur la menace nucléaire iranienne. Les stocks d'uranium enrichi restent une question majeure. Selon plusieurs médias américains, la Maison-Blanche aurait envisagé, ou envisagerait encore, de lancer une opération pour aller chercher les stocks d'uranium enrichi dont disposerait encore l'Iran. Une opération extrêmement complexe à mener. Est-ce que vous avez des informations précises ce matin sur le sujet?
Non, c'est pas le genre de choses dont on parle avec les ambassadeurs israéliens en France. Et si en France, franchement, si j'avais une information, c'est pas une question.
On le comprend effectivement, mais ça fait partie des options. Ça peut faire partie des options américaines. Où certains décrivent une folie d'une mission qui n'aurait jamais été menée d'une telle ampleur depuis la Seconde Guerre mondiale.
Je pense qu'une une opération de l'ampleur que nous voyons aujourd'hui n'a pas été non plus menée seulement par une voie aérienne depuis la Seconde Guerre mondiale, au moins. Le fait que ça n'a pas été mené ne veut pas dire que ça ne peut pas être mené. Ce que préparaient ou ne préparaient pas les armées, n'est pas quelque chose dont je peux parler aujourd'hui sur un plateau.
Monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Jarka, une question sur vos relations Israël avec notre pays, la France, qui s'est considérablement tendue ces derniers jours. Assimilez-vous Paris à une puissance hostile? Quand on voit les déclarations et quand on entend vos dernières déclarations il y a seulement quelques minutes, comment qualifier cette relation avec la France aujourd'hui?
Vous savez, ça fait 2 ans et demi que nous sommes en guerre. C'est une guerre existentielle pour mon pays. La guerre qui a suivi le 7 octobre, le massacre du 7 octobre, et la guerre que nous menons aujourd'hui, ce sont vraiment des guerres existentielles. Et quand la France refuse le survol de son territoire, c'est pas qu'on a demandé d'acheter des armements de la France, mais quand la France refuse le survol de son territoire pour permettre aux Américains de donner les munitions.
On parle de certains appareils,
certains appareils qui
transportaient du matériel à destination d'Israël.
Il y a eu un refus. Quand ce refus, qui nous a étonnés, franchement, nous a choqués, est fait d'une façon très claire,
La France s'est étonnée aussi de votre étonnement. Ouais, parce que, considérant que ça a toujours été la posture française.
Non, mais ça a peut-être été la posture française. Nous sommes dans une guerre existentielle. Alors, un pays qui se définit comme étant un pays ami, qui sait que nous sommes dans une guerre existentielle, à qui, franchement, la situation a été présentée d'une façon très claire, prend une décision de ne pas permettre le survol du territoire français à des munitions américaines, à des équipements américains pour la guerre contre l'Iran. En plus, ça a été clarifié que c'était seulement contre l'Iran, pas contre le Hezbollah. C'est une décision qui a des conséquences.
Une décision qui a des conséquences, et pour reprendre ma question, est-ce que vous assimilez aujourd'hui Paris à une puissance hostile ?
Ce n'est pas une puissance amicale.
Ce n'est pas une puissance amicale. J'aimerais vous interroger sur les mots d'un certain Eli Barnavi, qui a été votre prédécesseur à l'ambassade d'Israël ici en France, qui le dit, Israël n'a pas d'alliés en dehors des États-Unis et de quelques autres pays proches comme la Hongrie d'Orban. Est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis sont seulement vos alliés?
Eli Barnavi est quelqu'un qui peut-être... vous savez, alors je vais dire deux choses. Avant de répondre à votre question, je vais y répondre. Un ambassadeur qui est connu seulement par être ambassadeur dans un pays qui se retourne quand on retourne son pays, c'est comme un général qui retourne ses armes contre son propre pays.
Eli Barnavi se retourne aujourd'hui contre Israël par ce type de déclaration.
Parce que c'est quelqu'un qui, en dehors de la France, n'est pas du tout connu en Israël. S'il faisait ces déclarations en Israël, ça serait totalement légitime. Mais il n'est pas du tout connu. C'est quelqu'un qui n'est personne en Israël. Mais pour répondre à votre question, aujourd'hui, la situation entre Israël et nos voisins arabes de la région est une relation non pas amicale, mais d'alliés, plus que celle qu'elle n'a jamais été.
Et vous avez donc d'autres alliés que les États-Unis et la Hongrie d'Orban.
Bien sûr, l'un, d'autres, il est à travers le monde. Mais bien sûr.
Question rapide, question de fin à Joshua Zarqa sur ces incidents avec la FINUL dans le sud du Liban, vos intentions d'ailleurs dans le sud du pays, volonté de s'installer à long terme ou pas, des déclarations peut-être qui ont semé le trouble, mais est-ce que vous avez des informations supplémentaires sur ce qui s'est passé avec des soldats français? Vous disiez que peut-être des conclusions seraient à tirer, est-ce que vous avez de nouvelles informations à nous donner
encore,
ce matin?
Pas encore, nous enquêtons, parce que franchement, la première fois que nous avons entendu qu'il y a eu ces incidents, c'est quand quand on m'a appelé pour me dire qu'il y avait eu ces incidents. Nous enquêtons, c'est inacceptable. Si effectivement ça s'est passé comme ça s'est passé, je ne sais pas que je mets en doute, mais comme nous ne savons pas exactement encore qui étaient les unités qui ont fait ce qu'ils ont fait.
Et si des soldats israéliens étaient en cause,
des conclusions seraient tirées.
Merci infiniment, Joshua Zarqa, d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
Merci Marie Chantrey, c'était le face-à-face sur RMC et BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup arrive, il est en train de s'installer. C'est Face à Canteloup sur RMC en direct, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin,
8h50, Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup, il est 8h51. Ce matin, l'invité de Marie Chantrey, c'était Joshua Zarqa, ambassadeur d'Israël. Donald Trump s'est exprimé cette nuit au sujet de la guerre en Iran. Bonjour Monsieur Trump.
Elle n'est pas là, Pauline.
Non.
Pourquoi elle n'est pas là, Pauline? Bonjour, Mathieu Belliard. Je te connais, toi. Excuse-moi pour ce matin que je t'ai mis la main aux fesses dans l'ascenseur. Oui, parce que quand il enlève le chouchou de ses cheveux, Mathieu Belliard, il a les cheveux qui partent en pétage. J'ai cru que c'était Diana Ross. Où est Yvan Kassar? Mathieu, la double nationalité. Dis-le aux gens que t'es américain.
Américain,
good guy. Good guy. Pourquoi tu es planqué à la radio alors que tu devais te battre dans le détroit d'Hormuz avec nous? Alors tu sais quoi? Tu finis ta matinale sur ta radio de wokist. Tu rases ce chignon et tu pars avec moi sur le Abraham Lincoln. Ou alors on va à la go faire un golf.
Ouais.
Comme t'es puni, tu feras mon caddie. J'aurai Diana Ross comme caddie.
Allez, on verra. En attendant, vous pourriez nous détailler votre stratégie?
Oui, t'as du mal avec le mot stratégie.
Stratégie.
Ouais. Alors, j'augmente les droits de douane sur l'OTAN. Je construis une salle de bal pour les gardiens de la révolution et je signe un accord de paix avec le pétrole.
Excusez-moi, j'ai pas bien compris.
Je bombarde l'OTAN, je donne le prix Nobel de la paix au détroit de Hormuz et j'attrape Cuba par la chatte. Voilà. J'ai gagné.
Je comprends pas bien. Gagner quoi ? Le régime iranien n'a ni capitulé ni signé d'accord de paix.
Mais non, je m'en fous, là, j'ai gagné au Kaboulox. Je fais n'importe quoi depuis 30 jours. Alors, on refait une partie dès que j'ai attaqué Cuba.
Ça va aller. Merci, Monsieur Trump. Et sans plus attendre, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité.
Oh oui. Bonjour, Mathieu. Le prince consort. Consort du placard quand Apolline n'est pas là. Apolline va bien, j'espère.
Oui, très bien.
Non, ne m'envoyez pas de poser la question, mais comme vous avez l'insulté américaine, je me méfie. Mais oui, on les connaît, les ricains, ils sont prêts à tout, que ce soit pour renverser le dirigeant d'un pays ou même l'animatrice d'une matinale. Allez, c'est parti pour les titres. Après avoir attaqué l'Iran pour faire diversion à l'affaire Epstein, Donald Trump, envisage maintenant le contraire, c'est-à-dire révéler de nouvelles pièces du dossier Epstein pour détourner l'attention de la guerre en Iran. C'est plus MAGA, c'est MEGA. Make Epstein great again. Et puis Donald Trump annonce. On sait que la guerre en Iran touchait à sa fin car il avait atteint ses objectifs. Il n'a même pas eu besoin de dire poisson d'avril, personne ne l'a cru. L'annonce du retour de Céline Dion pour 10 concerts à Paris a suscité un engouement sans précédent dans le pays. Les Français se reconnaissent tellement en elle. Mais oui, Céline Dion, elle a ce petit côté français. Elle a quand même passé 5 ans en arrêt maladie.
Merci Stéphane. Nous sommes à présent en ligne avec Emmanuel Macron qui est en voyage officiel au Japon. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, je suis un super Saiyan.
Monsieur le Président, vous m'entendez ?
Oui, pardon, non, effectivement, vous avez vu mon Kamehameha avec la Première ministre japonaise. Parce que je connais Dragon Ball sur le bout des doigts, je suis le Son Goku de la politique, le Son Gohan de l'international, le Tortue Génial de l'économie, le Vegeta de la finance. Ben oui, je suis pas con. Dans l'avion pour le Japon, j'ai tapé manga sur Wikipédia, puis j'ai appris les noms par cœur des personnages pour impressionner les Japonais.
Voilà. Alors, des membres de l'opposition ont critiqué votre absence de France alors même que la crise pétrolière touche de plein fouet notre économie.
Oui, non, mais ça, je l'ai réglé avant de partir. Vous avez pas suivi? Avec les concerts Céline Dion à Paris, il y aura plus d'1 milliard de retombées économiques pour la France.
Français sont de plus en plus nombreux à souffrir de la hausse des prix des carburants.
Non mais écoutez, ils sont bien gentils les Français. Ils gueulent pour 10 balles de plus à la pompe et à côté de ça, ils claquent 300 balles pour réserver des places pour Céline Dion. Donc, ils iront à la Défense Arena à pied ou à RER, vous voyez. Ça aussi, c'est réglé. Alors, laissez-moi kiffer mon séjour au Japon tranquille. Moi, je me suis pas tapé 14 heures de vol loin de la France pour me retrouver à gérer vos petits problèmes.
Bon, très bien, mais merci Monsieur le Président. Et tiens, Ségolène Royal est venue nous rejoindre.
Oui.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, ça va le cocu? Bienvenue au club. Mais oui, Pascal de la Tour du Pain. Hein. Elle vous a bien quitté, que je sache. Oui, tous les jours, vous faisiez un petit 5 à 7 avec elle. Hein. Oui. Mais voilà, elle est partie avec un autre Mathieu. Hein, Mathieu coach. Hein. C'est pas la première fois qu'une femme part avec son coach. On les voit tous les matins, ils ont l'air épanouis, la petite Pascal de la Tour du Pain. Puis maintenant, avec lui, c'est 7 à 9, hein, c'est carrément la grasse matinée. Hein, oui. D'ailleurs, ils sont passés où les deux autres, Storm et Tenzo, hein. Moi, je les aimais bien, les deux petits tourtereaux. Dites donc, les couples, ça bouge beaucoup sur BFM. Un vrai club échangiste. Hein,
Mais vous veniez juste pour me dire ça, Madame Royal ?
Non, mais attendez, on a quand même le droit de popoter. Hein. En plus, j'ai que ça à foutre. En parlant de popoter, vous avez vu le retour de Céline Dion?
Oui.
C'est ça, les grandes stars. Hein. Les gens sont impatients de nous revoir sur le devant de la scène. Bah, Céline Dion et moi, on est les mêmes. Hein. 37 ans, c'est un âge où on a encore la vie devant soi.
Mais Madame Royal, vous êtes dans la même catégorie. De toute façon, vous ne faites pas du tout le même métier.
Mais quoi? Mais si, moi aussi, j'ai des tubes interplanétaires que tout le monde serait ravi de réentendre. Souvenez-vous quand je disais « bravitude hein », quand je disais « non, Monsieur Sarkozy, je ne me calmerai pas hein ». Ou des tubes plus intimistes, quand je disais « non mais François, t'as vu l'heure qu'il est, à l'heure à laquelle tu rentres, espèce de bâtard ». Voyez les gens le sourire, les gens se souviennent de mes plus grands succès. Donc moi aussi, je vais faire mon retour.
Mais où ça?
Ben n'importe où, moi. moi, vous savez, je suis tout terrain. J'ai fait les Deux-Sèvres, ouais. J'ai fait les pôles, que ce soit le sud, le nord, le. J'ai fait l'Algérie. Non, je le dis à mon public. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit.
Voilà, oui, voilà.
Merci, mon Dieu.
Merci Nicolas Canteloup, face à Canteloup qu'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment du jour, de la nuit en podcast.